Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous et quel immense bonheur, on l'a vécu tous ensemble.
Et c'est fini, l'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Les Français peuvent exulter, le staff
les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde. On va y revenir largement ce matin. Troisième demi-finale consécutive pour la France. Le pari de Didier Deschamps, encore une fois victorieux après la victoire 2-0 donc contre le Maroc hier soir. Nous serons en direct de Boston avec la voix du foot d'RMC, Jean-Louis Tour. Notre fil rouge, Eric Dimeco, qui va nous rejoindre pour se projeter dans la demi-finale. Ce sera donc le 14 juillet prochain, une date évidemment très symbolique. Ce sera face à l'Espagne ou la Belgique. Il y a Daniel Riolo aussi qui se lève pour nous ce matin, alors qu'il a veillé bien tard, vous l'imaginez. Il sera avec nous à 8h10. Et vous, au standard d'RMC, venez nous raconter comment vous avez vécu ce match. Venez partager avec nous la joie, l'émotion, l'analyse. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite? Est-ce que vous y croyez? Je vous attends au 32-16 et sur le WhatsApp de l'émission 06-12-424-424. À 7h40, on va revenir sur la canicule. Elle s'installe sur le pays. Les températures vont de nouveau continuer à grimper ce week-end. À quoi devons-nous nous préparer pour l'avenir? Je poserai la question aux spécialistes des crises climatiques, Gaël Musquet. À 8h30, l'invité du face-à-face, c'est le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. Alors que Donald Trump est, semble-t-il, menacé par les Iraniens qui voudraient tenter de l'assassiner. Dans un instant, le journal de 7h, mais à 6h59, prenons le temps avec vous, Géraldine, de voir cette météo très chaude des 9 départements en vigilance rouge.
Oui, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Sarthe. On a 76 autres départements qui sont en vigilance orange. Alors, au final, il n'y a que la Corse qui est en vigilance verte pour la canicule, donc c'est vraiment tout le pays qui sous d'extrême chaleur, avec des températures qui sont restées très élevées pendant la nuit, qui vont s'envoler encore cet après-midi puisqu'on attend jusqu'à 39 degrés à Lyon, à Limoges, 38 à Clermont-Ferrand, Nantes, 37 à Rennes, La Rochelle ou Toulouse, 36 à Paris, Bordeaux, 33 à Marseille. Et puis il faudra se méfier cet après-midi des orages qui seront parfois violents sur la moitié sud. On a des risques de grêle. À noter que donc cette chaleur va encore s'étendre puisque demain on aura 24 départements en vigilance rouge, la vigilance rouge qui touchera également le Centre-Val de Loire et l'Île-de-France.
C'était la météo sur RMC. Bon réveil avec Apolline Matin.
Tout RMC en podcast
sur l'appli RMC.
Excellent réveil à tous. Il est 7h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline. Bonjour à tous. L'Alliés en bleu, blanc, rouge, nuit de fête après la qualification des Bleus pour les demi-finales de la Coupe du Monde face au Maroc. 2-0, nous serons à Boston dans ce journal. La vague de chaleur qui se renforce. 9 départements sont ce matin en vigilance rouge à la canicule. Elle va s'étendre demain. On va tenter de comprendre pourquoi avec Géraldine Demory et Tadej Pogacar qui écrase déjà le Tour de France avec plus de 2 minutes d'avance sur la concurrence au général.
De Boston à Paris, la nuit a été courte pour les supporters tricolores.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Ils étaient plusieurs milliers à se rassembler hier dans les rues du pays à l'issue d'un match plutôt facile pour les Bleus. Dominateur face au Maroc, 2-0, l'équipe de France se qualifie pour sa troisième demi-finale de rang dans une Coupe du Monde et plonge le pays dans une douce folie. Illustration de la ferveur dans les rues de Paris, Victor Gérard.
Quelques secondes seulement après le coup de sifflet final, des klaxons et des chants résonnent dans les rues parisiennes.
On est en demi!
Une foule de supporters en liesse savoure la qualification des Bleus en demi-finale.
On est très heureux, on a fait une super performance. Tout le monde a bien joué, connaît un match monstrueux. Mbappé ira son pénalty, mais il se rattrape.
Exceptionnel.
Hugo, le drapeau tricolore sur les épaules.
Et ce que j'adore surtout, c'est que là, on fait la fête tous ensemble, même avec les Marocains. Et ça, c'est exceptionnel.
Des Marocains très nombreux qui chantent et qui saluent la performance de l'équipe de France.
Bravo, vous avez été très bon. Je m'appelle Sarah. Je suis dégoûtée, j'aurais aimé qu'on cherche au moins un but, même si le Maroc il a perdu. On est pour les Bleus, on est ensemble. Je crois à la Coupe du Monde et on va la chercher, la Coupe du Monde. On est pour les Bleus, allez les Bleus!
Des Bleus qui affronteront en demi-finale mardi le vainqueur du duel Espagne-Belgique ce soir. Aaron a sa petite préférence.
L'Espagne pour la revanche de l'Euro.
Ça te fait pas trop peur? C'est quand même une équipe qui a encaissé aucun but.
Non, on a peur de personne, sincèrement. On est les Avengers, on a tout ce qu'il faut, on va aller au bout. La Coupe du Monde, elle est pour nous cette année.
Il compte déjà les heures avant mardi, prêt à retrouver ses amis pour supporter les Bleus.
Allez!
Des supporters optimistes, la victoire a tout de même mis du temps à se dessiner. On retrouve Jean-Louis Tour ce matin en direct de Boston. Vous étiez au commentaire de cette rencontre et il a fallu attendre l'heure de jeu pour vous entendre exulter, Jean-Louis. Vous cassez la voix sur ce premier but de la rencontre signé Kylian Mbappé, capitaine exemplaire. C'est encore une fois l'homme du match, Jean-Louis.
Oui, parce que clairement, le doute ne fait pas partie de son vocabulaire à Kylian Mbappé. On le savait depuis un moment, mais on en a encore eu la confirmation hier. Même en ratant son premier pénalty en bleu depuis 2021, son mental est resté solide. Il a délivré les bleus par ce but magnifique. Et sur le deuxième, sa course ouvre l'espace à Dembélé, qui lui a rendu hommage après le match.
C'est un joueur incroyable, c'est notre capitaine. C'est un joueur qui ne doute pas, il a un mental incroyable. On est content pour lui. On veut encore plus de buts. On attend encore plus de buts de Kylian.
Un sens du jeu, du collectif rafraîchissant chez Mbappé sur cette Coupe du Monde. Didier Deschamps, son sélectionneur, l'a bien noté.
Beaucoup pensent que Kylian est quelqu'un qui est un dictateur, qui pense qu'à lui-même. C'est quelqu'un qui, en tant que capitaine, est exemplaire et de par ce qu'il fait sur le terrain aussi, au-delà de tous les buts qu'il marque. D'ailleurs, il a battu mon record de sélection, c'est pas beau ça.
Ah, ça, sur le plan des chiffres, presque tout le monde perd contre Mbappé. Il a donc dépassé Deschamps sur le nombre de sélections. Il lui en manque 41 pour le record de Loris. Et niveau but, c'est tout aussi affolant qu'au meilleur buteur du mondial avec Messi et 8 réalisations marquées en 6 matchs. 64 buts en équipe de France, dont 20 en Coupe du Monde à une longueur de l'Argentin.
Jean-Louis Tour, en direct de Boston ce matin.
Pour je vous attends tous au 32-16 et sur le WhatsApp de l'émission 06-12-424-424. Venez donc partager avec nous votre émotion et ce match évidemment. Il est 7h04 sur RMC, une nuit de fête particulièrement chaude. Hein.
Oui, la canicule s'installe durablement sur le pays et ça va se poursuivre jusqu'au 14 juillet au moins, nous dit Météo France. On a encore battu des records de chaleur hier et ce matin, 9 départements de l'Ouest sont en vigilance rouge, une alerte à la canicule Géraldine Demoré qui va s'étendre.
Oui, parce que demain, on aura 24 départements qui seront en vigilance rouge canicule. Ça ira jusqu'au Centre-Val-de-Loire et à l'Île-de-France. Parce qu'encore une fois, c'est le scénario qu'on craignait le plus qui se met en place. Une grosse goutte froide au large du Portugal qui va agir comme une véritable pompe à chaleur. Donc elle va aspirer l'air extrêmement chaud du nord de l'Afrique et la faire remonter sur la France. Dans les prochains jours, on aura régulièrement 40 degrés entre la Garonne et la Loire et des nuits où les températures ne descendront pas sous les 22 voire 25 degrés, avec un pic qui est attendu entre dimanche et lundi. Au niveau national, on pourrait se rapprocher des pics historiques des 24 et 25 juin dernier. Sachant que pour décider de la vigilance rouge, il n'y a pas que les températures qui rentrent en compte, il y a aussi la tension sur les hôpitaux et le contexte. On va avoir des grands départs en vacances et en week-end du 14 juillet, donc il faut absolument que les messages de prévention passent. Au final, demain, 22 millions de Français seront concernés par la vigilance rouge canicule.
Et cela fera l'objet d'un nouveau conseil interministériel présidé par Sébastien Lecornu ce matin avec des conséquences, l'annulation de nombreux événements sportifs. C'est le cas de l'Ironman de Versailles. La chaleur qui ne facilite pas la tâche des pompiers mobilisés sur le front des incendies. 325 départs de feu recensés sur le territoire, dans l'Allier, les Bouches-du-Rhône ou encore dans la Drôme. 3500 hectares ont déjà brûlé depuis lundi dans le département. 3 villages de camping et un centre de vacances ont été évacués dans les Pyrénées-Orientales. 1200 personnes sont toujours concernés par ces ordres d'évacuation dans 6 communes alentour d'Ille-sur-Tête.
Et ce qui surprend, ce sont ces incendies dans des lieux jusque-là épargnés.
Comme à la montagne, en Savoie, un feu qui a coûté la vie à un pompier volontaire mercredi, déclaré il y a 2 semaines, il est toujours actif ce matin avec des conséquences. 5000 personnes sont bloquées, coupées du monde dans les villages du Planet et Pralognan, la Vanoise, à 1400 mètres d'altitude sur place. La vie s'organise malgré tout. Sylvère Bonnet, directeur de l'Office du Tourisme.
Pour les 4-5 000 touristes que l'on a, un pont aérien avec des hélicoptères se met en action pour assurer les restaurants, les hébergements à pouvoir avoir les stocks demandés. Et également la même chose concernant la venue de médicaments. Samedi, dimanche, on demande à nos hébergeurs d'appeler leurs clients pour ne pas se rendre sur la commune de Pralognan, éviter une surcharge de touristes aux abords de Pralognan. On ne pourra pas bénéficier de la population touristique qui était prévue ce week-end, donc c'est un caillou dans la chaussure. On va pas mentir.
Patience, si vous prenez la route, c'est un des plus gros week-ends de l'année. Bison futé hisse le drapeau rouge dans le sens des départs ce vendredi. Ce sera même noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Et vers l'ouest demain, Olivier Faure, désavoué par les militants socialistes qui ont choisi une primaire fermée pour désigner leur candidat. Le premier secrétaire du PS proposait, lui, que le vote soit ouvert aux sympathisants socialistes. Et puis le Tour de France, Tadej Pogacar, qui assomme déjà le Tour, vainqueur de la première étape de montagne au pied du cirque de Gavarnie. Deuxième victoire déjà sur la route du Tour pour le Slovène qui s'empare du maillot jaune, Kevin Morin, avec plus de 2 minutes d'avance sur son poursuivant.
Oui, au pied du cirque de Gavarnie, Tadej Pogacar a été le gladiateur triomphant avec une attaque dans le col du Tourmalet à 44 km de l'arrivée qui a terrassé tous ses concurrents.
So happy.
Je suis tellement content, c'était un jour parfait, incroyable. On a fait all-in, c'était tout ou rien. L'excitation, la motivation et l'énergie étaient là.
Le Slovène a réalisé hier son plus long raid en solitaire sur le Tour pour reléguer son dauphin Jonas Vingegaard à 2 minutes 42 au classement général. Mais ne dites pas à Pogacar que la grande boucle est déjà pliée.
Cette question devrait être bannie. C'est le Tour de France. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Comme lui, son manager chez UAE Emirates, Mauro Gianetti, ne veut pas crier victoire trop vite.
Ça me ferait plaisir que ça soit comme ça, mais il y a quand même encore deux belles semaines devant nous. On a juste fait une étape de montagne. Vingegaard, c'est Vingegaard. Il ne faut jamais penser qu'il soit loin.
Le jeune coureur français Lenny Martinez reconnaît la supériorité de Pogacar et de son équipe.
C'était prévu. Ça monte à ce rythme-là. Quand les équipiers de Tadej roulent, c'est incroyable le rythme. Donc, il faut tout le temps bien.
Le suspense compromis pour le maillot jaune, la bataille est bien plus engagé pour la troisième place avec Paul Sexas en embuscade, sixième à 28 secondes du podium.
Et la septième étape aujourd'hui sur RMC réservée a priori aux sprinteurs avec une arrivée à Bordeaux.
Il est 7h09, c'était le journal de Thibaut Texer, la France en demi-finale de la Coupe du Monde.
Mbappé, allez Mbappé, Mbappé, la frappe ouais
éliminé le Maroc hier soir 2-0. Jean-Louis Tour, on vous retrouve, vous êtes la voix du foot sur RMC, c'est vous qu'on entend évidemment. Vous avez commenté le match et vous êtes en direct de Boston où la rencontre s'est déroulée. Les Bleus, impressionnants hier, ils ne doivent avoir peur de personne et on entendait d'ailleurs tous les supporters ce matin qu'ils en ont peur de personne. C'est votre parti pris dans un instant Jean-Louis et puis évidemment tous ceux qui nous écoutent à la radio, appelez-nous au 32-16 pour venir partager. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 sur RMC, on va parler foot, mais d'abord de vos vacances, parce qu'on vous offre vos vacances toute la semaine, vous le savez, sur RMC. C'est la dernière chance aujourd'hui pour gagner vos prochaines vacances à la mer ou à la montagne. Vous remportez un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Vous allez pouvoir choisir parmi 45 destinations dans les plus beaux endroits de France. Bellambra s'occupe de tout, des enfants, des activités, des repas. Le tout compris premium, c'est cet aspect-là qui me plaît le plus, j'avoue. Pour remporter votre séjour Bellambra, vous envoyez dès maintenant vacances au 7-32-16. Vacances au 7-32-16. Le gagnant sera en direct avec nous à 8h20. Bonne chance à tous. 7h13.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Les Bleus qui ont éliminé le Maroc hier soir 2-0 et Jean-Louis Tour a veillé, évidemment vous êtes en direct de Boston, vous êtes la voix du foot sur RMC et vous vous dites ce matin, vous l'avez vraiment vécu avec nous en direct, on l'avait vécu à travers vous, que les Bleus n'ont à avoir peur de personne.
Non, je pense pas qu'ils aient peur de grand monde de toute façon dans leur état d'esprit, même s'ils sont restés quand même encore prudents, hein, Mbappé, quand on lui a parlé de ça hier en disant est-ce que c'est pas la plus belle équipe de France, il dit non, mais moi j'ai été champion du monde, j'ai fait une finale avec d'autres équipes, là celle-là pour l'instant elle a rien gagné, elle est pas arrivée en finale, mais c'est vrai qu'on a cette impression impressionnante, c'est-à-dire que moi je pensais pas que c'était possible en fait, ouais. Je pensais pas que c'était possible d'arriver en demi-finale de Coupe du Monde en ayant presque pas tremblé sur 6 matchs. C'est-à-dire que là, sur les matchs à élimination directe, Suède, Paraguay, Maroc, les adversaires ont presque pas tiré contre l'équipe de France. Je savais pas que ça pouvait exister, une telle domination sur une Coupe du Monde. D'ailleurs, je crois que c'est quand même très rare. Dans l'histoire de l'équipe de France, c'est jamais arrivé. Dans l'histoire du foot, il y a des équipes qui ont dominé, mais avec autant de facilité jusqu'à arriver en demi-finale. Je pense que c'est très rare. Et l'équipe de France a dégagé cette impression de puissance encore un peu plus hier soir. En quart de finale en plus, contre un adversaire forcément le niveau augmente match après match, mais même encore contre le Maroc on a senti les Bleus intouchables.
Les Bleus intouchables, même s'il a fallu attendre la 60e minute pour vraiment que ça rentre. Au début on se disait mais quand est-ce que ça va rentrer quoi.
C'est vrai, mais en même temps, on se disait aussi qu'on arrivait à se procurer ces occasions. Donc à partir de là, il y a forcément un moment quand il y a autant de talents offensifs où ça passe. C'est ça. Et moi, à partir du moment où les Marocains étaient si peu dangereux, bon bah je me suis dit qu'à un moment donné, ça allait tourner forcément. Alors Mbappé, il a montré encore une fois à quel point mentalement il est solide.
Mentalement, inouï.
Ah mais c'est trop fort mentalement.
Ouais, c'est trop fort.
Et il est pas fait comme les gens normaux, hein. De toute façon, c'est normal, hein. C'est un sportif de haut niveau comme ça, ce serait pas un tel champion sinon, mais ne réussir à ne pas douter comme ça. Déjà sur le premier match contre le Sénégal, il rate beaucoup de choses et pourtant il met quand même un doublé derrière, signe que il ne doute pas malgré les ratés. Et là encore, il rate ce penalty, c'est pas simple à ce moment-là. Ça aurait facilité les choses pour l'équipe de France et il a continué d'essayer et il a tenté encore ce tir magnifique qui permet d'ouvrir le score et en plus de ses buts dans le jeu, il sert les autres, il se met au service du jeu. Deschamps l'a reconnu hier en conférence de presse après le match. Et ça aide à tous les autres autour de lui à être meilleurs.
C'est vraiment une équipe extraordinaire. Vous parliez de Didier Deschamps. Pour lui, et on le sent d'ailleurs, il le dit, j'aimerais bien qu'on écoute ses mots. Il dit, c'est une très belle victoire. La compétition n'est pas terminée. On le sent dans une concentration et une détermination totale. On l'écoute.
On n'est qu'en demi-finale. Déjà, on saura notre adversaire demain. On va les regarder. Donc, il faut pas se voir arriver tout en haut. Il y a encore une étape. Elle sera forcément difficile parce que c'est la Coupe du Monde. On va voir l'équipe qu'on aura en face. Et évidemment, mardi, et l'objectif, ça sera d'aller tout là-haut. Mais c'est par étape. Aujourd'hui, c'était une étape. Chaque fois, c'est important quand c'est élimination directe. Mais déjà, on s'assure de faire deux matchs. Mais dans les deux matchs, vous savez lesquels je préfère jouer.
J'adore cette humilité. J'adore cette détermination. J'adore cette constance, Jean-Louis.
Ouais, mais lui, il est dans son rôle, hein, évidemment, de penser à tout ça. Et nous, le nôtre, c'est quand même de mettre en perspective ce qu'il est en train de réaliser. C'est-à-dire que trois demi-finales de suite de Coupe du Monde, et ça pourrait même faire trois finales si on arrive à se qualifier mardi, c'est un truc très rare dans l'histoire des Coupes du Monde. L'Allemagne y est parvenue années 80, début 90. Le Brésil y est parvenu aussi, mais c'est très rare. Et côté français, ce n'était jamais arrivé, une telle récurrence au haut niveau. C'est grâce à Deschamps, c'est grâce à l'équipe, effectivement, qui il a réussi à construire, mais ça reste un exploit sportif très important à mettre en perspective.
Mathieu et Damien sont en direct avec nous, qui nous ont appelés au 32-16. Mathieu, vous êtes dans le Morbihan, et Damien, vous êtes dans le New Jersey. Je vais commencer avec vous, Damien. Comment vous le vivez depuis les États-Unis, justement ?
Ah bah, franchement, tout le monde regarde les matchs en ce moment. Même les Américains sont à fond dedans. Et j'ai converti un peu tout le monde à mon boulot,
ouais.
Qui regarde. Au départ, ils suivaient un peu les États-Unis et tout ça. Et puis maintenant, depuis qu'ils sont éliminés, tout le monde est pour la France maintenant.
Ah, tout le monde est pour la France. Vos collègues, ça y est, voilà, ils sont.
Mais d'ailleurs, à Pauli, je me permets juste, il y a un phénomène incroyable aux États-Unis. C'est, vous savez, on cherche parfois nous des supporters français pour faire des sujets d'avant-match autour du stade et tout. Ouais. C'était le cas hier. On est tombé sur un tas de maillots français, mais ce n'était pas des Français, c'était des Américains qui se prennent de passion pour l'équipe de France. Peut-être à cause du design du maillot, etc. Peut-être aussi parce qu'ils connaissent Mbappé. Mais il y a un vrai phénomène, une tonne d'Américains qui deviennent vraiment fans de l'équipe de France.
C'est extraordinaire, ça, Damien. Vous le vivez, ça ?
Oui, et puis d'ailleurs, j'en ai rencontré plein, hein, des Français qui, dans la rue, tout ça, qui portent le maillot de l'équipe de France. J'ai été au match du Paraguay, d'ailleurs, à Philadelphie. Ouais. Et il y avait beaucoup de supporters autour de moi. Je sais que c'était des Américains ou des Sud-Américains, même, qui portent des maillots français.
Un engouement énorme pour la France. Il est 1h du matin d'ailleurs pour vous, Damien. Je comprends que vous ayez veillé. Mathieu, vous êtes dans le Morbihan. Pour vous, il est bien, oui. Il est bien 7h du matin. Mathieu, honnêtement, c'est extraordinaire. Vous avez peur de la suite ou non?
Peur de la suite, je vais pas aller jusqu'à dire peur quand même, mais pour l'instant, moi, je trouve que l'équipe de France non plus n'a pas rencontré grand-chose dans cette Coupe du Monde. On a rencontré une équipe B de la Norvège qui ne jouait pas ce match à fond. On a évité l'Allemagne parce qu'ils ont déjoué contre le Paraguay. Le Maroc est certes une bonne équipe, mais je pense que les joueurs qui jouent dans l'équipe du Maroc ne sont pas non plus tous titulaires dans des grands clubs, à part Hakimi et Brahim Diaz. Ils ont un grand gardien qui mériterait par contre d'être beaucoup mieux, parce qu'il est très très fort, leur gardien. Mais moi, j'attends un match référence de cette équipe-là, avec cette forme offensive, cette nouvelle équipe, on va dire, avec ces quatre attaquants contre une grande nation, pour vraiment me dire, bah ouais, cette équipe est vraiment imbattable, quoi.
Jean-Louis, alors il y a eu quand même le Maroc hier qui était déjà très très fort, mais qui en effet face à la France avait l'air de pas y arriver, quoi. Mais là, il va y avoir Espagne ou Belgique. Comment vous voyez les choses, Jean-Louis?
Oui, c'est sûr que c'est un niveau supérieur à chaque fois, mais j'ai eu l'impression quand même que sur chaque match des Bleus à la Coupe du Monde, on s'est dit à chaque fois là ça va être difficile, le match d'après va être difficile, et quand à chaque match on se dit bon bah finalement on a joué personne ou l'adversaire est pas bon, bah c'est peut-être tout simplement que la France est vraiment très
exactement,
forte
c'est ce
et
que
rend
dire.
Ses adversaires faibles en fait à chaque fois. Alors effectivement, il y a un moment donné dans la Coupe du Monde où il y a quand même des matchs un peu serrés, enfin en tout cas j'imagine, ce sera sans doute le cas en demi, ça pourrait être le cas en finale, mais cette équipe est vraiment, vraiment impressionnante et elle rend les autres faibles.
Merci beaucoup Jean-Louis Tour en direct de Boston. Damien, auditeur RMC depuis l'autre côté de l'Atlantique, depuis le New Jersey, et Mathieu depuis le Morbihan. On poursuit évidemment, c'est Daniel Riolo et Eric Dimeco qui seront avec nous à partir de 8h. Continuez à nous appeler au 32-16 pour réagir. 7h21, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Ce matin vous nous racontez l'histoire d'un régime de l'armée française, des soldats d'élite, d'un régiment pardon de l'armée française, des soldats d'élite des forces spéciales.
Oui, le premier RPIMA, c'est
le fameux RPIMA
qui est un régiment très spécial de l'armée française, exfiltration, neutralisation, renseignement. Ces soldats œuvrent dans le plus grand secret pour la France, Apolline.
Et vous allez nous raconter ce secret dans 60 secondes, 7h22.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story tous les matins. L'histoire éclaire notre actualité sur RMC avec vous, Arthur Chevalier. Arthur, la visite a été tenue secrète jusqu'au dernier moment. Hier, Emmanuel Macron s'est rendu à Bayonne auprès d'un régiment d'élite, le premier RPIMA.
Ah oui, le premier RPIMA, c'est le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Alors selon nos informations, le président y est allé pour saluer le départ de son ancien aide de camp, le colonel Cédric Lavis, qui commandait donc le premier RPIMA jusqu'à hier. Cette visite n'était pas à l'agenda officiel du président et cette passation de pouvoir a eu lieu dans la garnison du premier RPIMA. Ce lieu, c'est la citadelle de la ville de Bayonne.
Ce régiment, c'est l'un des plus prestigieux de l'armée française.
Oui, le premier RPIMA, c'est une unité d'élite dédiée à des opérations parfois secrètes, les exfiltrations, la neutralisation, le renseignement. Mais c'est aussi un régiment qui fait partie de l'histoire de France, Apolline. Tout a commencé en 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale. Le général de Gaulle est à Londres, bien décidé à résister aux nazis. Il fonde l'armée de la France libre et c'est au sein de cette armée qu'il a créé un premier régiment de parachutistes. Ce régiment, c'est l'ancêtre direct du RPIMA.
Et cette unité, elle va ensuite être associée à l'armée anglaise ?
Oui, à un de ses meilleurs services de force spéciale. Son nom, c'est le SAS, le Special Air Service. À l'époque, c'est la seule unité française sous commandement étranger. Les Français du SAS seront vite engagés sur le terrain. Ils vont combattre les nazis en Afrique, au Proche-Orient, en Europe. Ils vont même faire le débarquement de juin 1944. Les SAS français sont les premiers soldats à participer au débarquement. Ils sont parachutés en Bretagne la veille du D-Day, soit le 5 juin.
Après la guerre, qu'est-ce qu'ils deviennent ?
Alors, ils rejoignent officiellement l'armée française et ils repartent au combat quasiment immédiatement. Ils sont déployés dans la guerre d'Indochine. Ils vont même participer à une des pires défaites militaires de l'armée française, la défaite de Dien Bien Phu. C'était en 1954 et ça opposait les forces vietnamiennes à la France.
En 1960, ce régiment devient officiellement le premier RPIMA.
Absolument. Son lieu de garnison devient donc Bayonne, le même qu'aujourd'hui où s'est rendu hier le président. La devise du premier RPIMA, c'est « qui ose gagne ». La couleur de son béret, c'est le rouge bordeaux. Intégrer cette troupe d'élite, ça requiert évidemment une condition physique et psychologique hors norme. Et ces soldats ont participé aux principales guerres de l'armée française de ces 30 dernières années. Les Balkans, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire et bien sûr le Mali.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Il est 7h25 sur RMC. Et dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Juste après, on va revenir sur cette canicule qui s'étend et s'amplifie en France. Demain, le centre Val-de-Loire et l'Île-de-France basculeront dans l'alerte rouge. Notre pays est vulnérable. Voilà ce que nous dira l'un des spécialistes des catastrophes naturelles et de la manière de s'y adapter. Gaël Musquet, il sera avec nous à 7h40. À 7h50, c'est vendredi, c'est le débat entre la voix de droite et la voix de gauche. Charles Consigny, Cécile Duflot, ils vont revenir sur la candidature de Marine Le Pen pour 2027. Juridiquement, oui, elle a le droit. Politiquement, est-ce que c'est normal ? Moralement, est-ce que c'est normal ? La voix de droite et la voix de gauche débattent à 7h50 et vous êtes évidemment les bienvenus au 32-16. Il est 7h26, restez bien avec nous, on se retrouve dans un instant. 7h30, tout pile sur
RMC. RMC. Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabi. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La France dans le dernier carré du mondial. C'est Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé qui ont délivré les Bleus face au Maroc. Victoire 2-0. La demi, ce sera mardi, soit contre l'Espagne, soit contre la Belgique. La canicule prend de l'ampleur. 9 départements en rouge aujourd'hui, 24 demain. Et vous l'entendrez, certains se ruent dans les hôtels des régions où il fait encore un peu frais. Et puis Olivier Faure, désavoué, revers pour le patron du PS qui a finalement, le PS, voté pour une primaire fermée en vue de la présidentielle.
La mission continue pour l'équipe de France.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Direction les demi-finales du mondial.
Grâce à sa victoire 2-0 contre le Maroc, hier, les Bleus délivrés par deux buts en seulement 6 minutes. Un de Kylian Mbappé, puis d'Ousmane Dembélé sous les yeux de 4000 supporters rassemblés au Zénith de Lille, Thomas Palmier.
Il y a bien sûr eu du stress en première période quand les Bleus n'arrivaient pas à marquer. Mais tout s'est décanté après la pause. Fini de se ronger les ongles, les supporters basculent dans l'euphorie. Mais avec une telle équipe, les fans rêvent plus grand.
Ouais, bien sûr, la troisième étoile, elle arrive.
Ah, c'était incroyable. On attend la finale avec impatience.
Il y aura quand même une demi-finale à jouer.
Encore une demi-finale, c'est la troisième consécutive. Et là, bah, on verra si c'est l'Espagne ou la Belgique, mais on a une petite préférence pour la Belgique.
Mais alors, qui pour arrêter les Bleus dans cette Coupe du Monde ?
Rien ! On va gagner ! Personne !
Solide en défense et très efficace. Offensivement, cette équipe de France continue de séduire.
C'est un match de dingue, ils sont trop trop forts, il n'y a rien à dire en vrai. Je pense que la Coupe elle est pour nous, on la ramène à la maison cette année !
Les supporters réunis à Lille s'enflamment et pensent déjà à la finale, mais ils ont quand même fait la fête jusque très tard dans la nuit.
Et avant la finale, il y aura la demi-finale. On connaîtra donc l'adversaire des Bleus ce soir. Coup d'envoi de Belgique-Espagne à 21h. Kylian Mbappé lui a donné des nouvelles rassurantes après sa sortie à la 77e. Sortie à cause d'un coup à la cheville sur un tacle du défenseur marocain Issa Diop. Le capitaine des Bleus assure que ça va. Pas d'inquiétude pour le match de mardi. Côté supporters, la soirée s'est passée relativement dans le calme. Mais c'est de l'autre côté de la Manche, à Londres, que des heurts ont éclaté en marge du match France-Maroc. Un policier a été blessé. La vague de chaleur se renforce avec 9 départements en vigilance rouge canicule aujourd'hui dans l'Ouest. Ça passera à 24 demain avec le centre Val-de-Loire et l'Île-de-France. Le gouvernement active ce matin une nouvelle fois sa cellule de crise pendant que la liste d'annulations d'événements s'allonge. Événements sportifs a commencé par le triathlon de Versailles de dimanche. Décision de bon sens. Salut Wilfried Samu, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France.
C'est essentiellement l'effort qui renforce l'hyperthermie, des coups de chaleur, des vomissements, des diarrhées. Forcément, votre corps est pas fait pour fonctionner au-delà d'une certaine température. On rentre en période de vacances. Le nombre de lits, par exemple, en soins critiques commence à diminuer. Le nombre de personnel en poste commence aussi à diminuer. On peut pas d'un côté diffuser des messages à la population en leur disant essayez d'adopter un comportement sans vous exposer aux périodes de plus forte chaleur. Puis d'un autre côté, autoriser des manifestations sportives avec des hauts risques de complications.
Des fortes chaleurs qui vont durer jusqu'à au moins mardi selon Météo France. Et pour ne pas avoir à les supporter, certains Français font déjà tout pour trouver un endroit plus frais. Caroline Renaud.
Chaque fois qu'Agathe décroche le téléphone, la gérante de l'hôtel Mercure de Granville dans la Manche sait déjà ce qu'elle va entendre.
Première question qu'on nous pose avant de réserver, c'est « Avez-vous la climatisation ?»
L'hôtel affiche complet depuis déjà 2 semaines.
On n'a jamais autant d'appels qu'on en a eu cette année en tout cas, et autant de réservations si tôt.
Dans les Alpes, Patricia profite aussi de l'effet canicule dans son camping. Elle a 2 fois plus de demandes que l'année dernière.
Entre 4 à 5 appels par jour qui nous demandent si on a de la place pour le week-end du 14 juillet. La température de la journée et puis bien sûr celle de la nuit.
Un carnet de réservation qui tranche avec celui de Benoît dans le Morbihan, département qui passe même en vigilance rouge ce midi.
Ça se remplit difficilement. Une réservation sur 3, on la prend pas parce qu'il n'y a pas la clim.
Les 3/4 de ces chambres ne trouvent pas preneur.
C'est pas terrible parce qu'on avait commencé à faire un bon mois de juin. Ça s'est un peu arrêté net d'un seul coup. Il y a beaucoup de chaleur, on fait avec, mais c'est pas suffisant. À un moment donné, si ça dure tout l'été, ça va être compliqué pour passer l'hiver.
Le directeur de cet hôtel a déjà démarché plusieurs entreprises pour installer la climatisation en septembre pour que cette situation ne se reproduise plus la saison prochaine, dit-il.
Un homme en garde à vue pour son comportement suspect près d'un départ de feu. Hier, près de Perpignan, deux nouveaux départs de feu dans les Pyrénées-Orientales. Alors que la situation s'améliorait, selon le préfet, sur le gros incendie qui a déjà ravagé 5000 hectares dans le département, les habitants de 9 communes ont pu rentrer chez eux hier soir, alors que dans la Drôme, de nouvelles évacuations ont eu lieu, notamment dans un camping de Die et dans un hameau. Dans le sud de l'Espagne, un incendie s'est déclaré là encore hier en fin de journée près d'Almeria. Il a fait 12 morts. Certaines personnes ont été retrouvées mortes dans leur voiture. Il est 7h35 sur RMC. Un revers pour Olivier Faure cette nuit. Le premier secrétaire du Parti Socialiste a perdu un vote sur la méthode pour désigner le candidat socialiste à la présidentielle. Les membres du parti devaient choisir soit une primaire ouverte au plus grand nombre, soit une primaire limitée aux adhérents. C'est la primaire resserrée qu'ils ont choisie. Cyprien Pezril, service politique d'RMC. Et c'est Raphaël Glucksmann qui pourrait en profiter.
Oui, même si Raphaël Glucksmann n'a pas encore confirmé sa participation à cette primaire, c'est bien ce format resserré qui pourrait lui être le plus favorable. Lui qui a besoin du soutien du PS, ne serait-ce que pour financer sa campagne. Cette primaire devrait être organisée fin septembre, début octobre. Les modalités sont encore à affiner, mais les militants et sympathisants souhaitant voter pourraient avoir à débourser jusqu'à une vingtaine d'euros. Avec ce vote, Olivier Faure, le patron du parti, se retrouve fragilisé. Il défendait une primaire ouverte au plus grand nombre. Il doit maintenant changer de méthode et il faut mettre le cap vers la présidentielle, appelle son opposant interne numéro 1, Boris Vallaud, cette nuit dans un communiqué. Le PS qui, comme depuis des semaines, reste morcelé. L'inquiétude est toujours là, souffle un baron. Quand un autre se lamente, Mélenchon est lancé à pleine vitesse pendant que nous, on tourne encore en rond.
La tapisserie de Bayeux vient d'arriver à Londres, au British Museum, à qui elle est prêtée pendant un an. Transfert historique pour cette broderie très fragile sur la conquête de l'Angleterre. On vous expliquera tout dans le journal de 8h. Et puis une étape pour les sprinteurs aujourd'hui sur le Tour de France entre Ajetmo et Bordeaux, après une victoire écrasante hier de Tadej Pogacar dans les Pyrénées.
Et puis le quintet, c'est à Cabourg.
Oui, départ 20h15, la Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 15, Jasmin Gemma. L'outsider, c'est le numéro 4, Jewel Kim, le 15 et le 4.
C'était le journal de Clara Gabi et il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
40 degrés à Perpignan ou à Béziers, 38 à Albi, à Nantes, 36 à Rennes. Le coup de chaud sur la France se poursuit. Bonjour Gaël Musquet. Spécialiste de la prévention des catastrophes naturelles, la France semble particulièrement vulnérable au changement climatique, peut-être pas suffisamment adaptée. Comment faire pour affronter ces canicules? On va voir avec vous et vous n'hésitez pas évidemment à nous appeler au 3216. Dites-nous quelle température il fait chez vous et comment est-ce que vous tentez de survivre à cette extrême chaleur. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Enfin, vous êtes bien, vous avez chaud, très chaud. La France qui est à nouveau sous une extrême vague de chaleur. Comment faire pour lutter contre ces canicules à répétition? C'est la question que l'on se pose avec vous ce matin. Gaël Musquet, bonjour. Vous êtes spécialiste de la prévention des catastrophes naturelles. Encore des records de température battus hier. 41 degrés à Narbonne, 40,9 à Perpignan, 38,9 au Pertus dans les Pyrénées-Orientales. Et ça va continuer au moins jusqu'au 14 juillet et peut-être même à nouveau plusieurs fois pendant l'été, Gaël?
On a effectivement des probabilités d'avoir des températures élevées. Évidemment, on va attendre les résultats des modèles météo. Il va falloir rester vigilant et pratiquement 2-3 jours avant à chaque fois, bien être vigilant aux différents bulletins. On a même, nous, du mal, on est un peu frustrés parfois de ne pas pouvoir donner plus d'informations sur des plus longues durées, mais ces modèles météo aujourd'hui sont aujourd'hui même eux en difficulté parce que c'est des températures que l'on n'a jamais eues. On bat des records mensuels, voire des records absolus tous les jours. Donc c'est dire à quel point la situation, même pour les scientifiques qui sont au chevet en fait de ces questions tous les jours, ont aussi eux du mal face à ces températures extrêmes, même si c'est des choses que les climatologues avaient anticipé depuis des années, c'est-à-dire qu'on est dans la fourchette haute de ce que l'on avait théorisé sur une France à plus 2, plus 4 degrés. On est dans la fourchette haute et c'est aussi maintenant ce qu'il faut comprendre. Et le Haut Conseil pour le climat l'a dit hier, il faut que l'on commence à adapter notre pays. On est en retard sur l'adaptation au climat
un changement, en fait, à assumer que le climat a changé et que donc il va falloir avoir une autre manière de vivre, une autre manière de construire. Je voudrais qu'on dise un mot des infrastructures avant de parler de notre santé à tous. Les infrastructures, on a entendu hier notamment EDF qui laissait entendre que malgré tout, tout est en tension. Ça tient, mais c'est en tension et c'est évidemment des trains annulés ou retardés, c'est des câbles électriques qui parfois lâchent, c'est du point de vue de l'agriculture une grande difficulté sur les moissons. Qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité, j'ai envie de dire, Gaëlle? Est-ce qu'on va pouvoir lutter sur tous les tableaux?
Alors c'est difficile, même si on a un système qui reste performant. La priorité, on a déjà d'un côté l'électricité. Il faut bien comprendre que notre économie, nos vies, notre santé, le froid, tout dépend de l'électricité. Donc la priorité, dans un premier temps, évidemment, c'est vraiment de maintenir ce réseau électrique à flot parce que toutes les industries dépendent d'elle. Ensuite, évidemment, le système de santé, parce que la priorité, c'est aussi les vies. Mais évidemment, s'il n'y a pas d'électricité, on a du mal à travailler dans ces hôpitaux. Et bien évidemment, nos agriculteurs qui ont, eux, à la fois besoin de récolter, évidemment, c'est des enjeux économiques, mais on en a aussi besoin pour nous. La chaîne du froid est importante, parce que sans le froid, sans la climatisation, sans les réfrigérateurs, les surgélateurs, les congélateurs, ben, toute une partie de notre chaîne alimentaire est complètement cassée. On a des centres commerciaux hein, qui ont dû jeter de la nourriture parce que leur réfrigérateur était malheureusement en panne ou en incapacité de refroidir les aliments. Donc voilà, c'est sur tous ces fronts-là qu'il va falloir travailler. Le maître mot sur les prochains jours, et on l'a vu sur les deux précédentes canicules, c'est la solidarité.
Gaëlle Musquet, je vous arrête parce que on l'apprend à l'instant et c'est un urgent des agences qui nous le donnent. Le gouvernement annonce à l'instant déclarer un gouvernement hors sec exceptionnel, un plan hors sec exceptionnel. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Gaëlle Musquet, en termes de conséquences?
Oui, bien sûr. Alors, les plans hors sec, ce sont des plans qui sont déclenchés après, en général, des orages, des tempêtes, des grosses crues qui permettent de mobiliser tous les services et d'organiser les secours. Et donc, faut imaginer ce que ça veut dire pour une canicule qui est une crise à cinétique lente. Donc, on peut penser qu'on n'est pas dans un orage très violent qui nécessite une réaction violente.
Immédiate, oui.
Voilà. Et bien là, sur une crise à cinétique lente, c'est inédit de déclencher ce que l'on aurait déclenché sur une grande tempête après une grande tempête.
Après une catastrophe naturelle
majeure avec une forte cinétique.
C'est très intéressant.
C'est l'organisation des secours.
Ça veut dire aussi quand même que le fait que ce soit une deuxième vague caniculaire a vraisemblablement poussé le gouvernement à prendre cette décision. Donc je rappelle cette information qui nous parvient à l'instant. Le gouvernement déclare un plan hors sec exceptionnel qui est décidé par le gouvernement à l'instant. Les conséquences, elles sont donc sur les secours, Gaëlle, elles ne sont pas forcément sur l'organisation quotidienne, les différentes manifestations qui pourraient être annulées par exemple.
Alors, faut savoir qu'on a des vigilances rouges aujourd'hui et demain les départements, il y en aura plus de 24 normalement. Faut bien comprendre que ces vigilances rouges, leur objectif aussi, même si on a été un peu léger sur la précédente canicule, l'objectif c'est aussi libérer les agents de sécurité, les policiers, les pompiers qui sont mobilisés, les agents et puis les personnes de la sécurité civile sur des opérations plus urgentes. Pour que les collectivités aussi puissent s'organiser. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, sur une crise qui dure, on n'est pas sur une tempête où on passe à autre chose au bout de 2-3 jours. Là, il faut comprendre qu'on est sur une crise qui va durer et donc que le maître mot, ça va être la solidarité. Et donc, à la fois déclencher le plan sec et annuler, prendre ses responsabilités sur ces manifestations, c'est permettre de sauver des vies, de réallouer des besoins sur des personnes isolées qui sont, elles, très en difficulté.
On l'a vu chez les précédents. Que tout soit concentré, effectivement, sur la lutte contre les conséquences donc, de ces canicules. Merci beaucoup, Gaëlle Musquet, d'avoir été en direct avec nous, spécialiste de la prévention, justement, de ces catastrophes naturelles. Je vous rappelle cette information qui nous parvient à l'instant. Le gouvernement qui déclenche un plan hors sec exceptionnel. Il est 7h40. 7h47. C'est vendredi, c'est le débat. Voix de gauche, voix de droite, Cécile Duflot, Charles Consigny. Bonjour à tous les deux. C'était mardi soir, écoutez Marine Le Pen, tout juste condamnée par la justice, mais qui annonçait ça.
Je suis candidate à l'élection présidentielle.
Et vous ne changerez pas d'avis ?
Non, je ne changerai pas d'avis, non. Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
Est-ce que Marine Le Pen a raison de se présenter ou est-ce que ça abîme la démocratie ? Charles Consigny, Cécile Duflot en débattent dans un instant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, le débat du vendredi, mais d'abord le bonus, les Anglais d'Oasis, Mathieu.
Oui, avec la bande-annonce du documentaire consacré à la reformation du groupe qui vient d'être dévoilé, la réconciliation des frères Gallagher, les répétitions, l'ambiance en coulisses et des milliers de fans ravis de retrouver Oasis. Le documentaire Don't Look Back in Anger, signé du créateur de la série Peaky Blinders, ce sera le 11 septembre en salle, un peu plus tard sur Disney+, tandis que la rumeur court d'une nouvelle tournée d'Oasis en 2027, rien d'officiel pour l'instant. En attendant... C'est peut-être à la Coupe du Monde qu'on pourrait retrouver Liam, le chanteur du groupe, ravi de voir les supporters anglais et l'équipe nationale chanter Wonderwall, le tube d'Oasis dans les stades. Liam Gallagher a carrément fait une promesse. Si l'Angleterre atteint la finale de la Coupe du Monde, il se dit prêt à chanter Wonderwall au stade avec les supporters. Ça dépendra donc de la Norvège et sans doute de l'Argentine. À suivre.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
Il est 7h50, on est vendredi, le vendredi c'est le débat, la voix de droite, la voix de gauche. Bonjour Charles Consigny.
Bonjour.
La voix de droite, Cécile Duflot, la voix de gauche. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Marine Le Pen, condamnée, mais candidate. Condamnée pour une deuxième fois par la justice, qui a annoncé cette semaine qu'elle serait bien la candidate du RN, qu'elle se pourvoyait en cassation. Est-ce qu'elle a raison ou est-ce que ça abîme la démocratie, Charles?
Ah bah moi je pense soit on est une démocratie et dans ces cas-là les voies de recours valent jusqu'à leur épuisement et donc Marine Le Pen est dans la phase ultime de ces voies de recours par ce pourvoi en cassation qui s'il est rejeté marquera la fin de la procédure en France et si au contraire l'arrêt est cassé ouvrira un nouveau procès soit on défend jusqu'au bout la démocratie et dans ces cas-là un candidat qui n'est pas condamné définitivement peut jusqu'à l'épuisement de ses recours être candidat, soit on a une vision à géométrie variable de la démocratie, et dans ces cas-là, on fait semblant de défendre l'état de droit en piétinant l'état de droit. Moi, je pense qu'elle a parfaitement le droit d'être candidate.
Le droit d'être candidate, au fond, elle illustre l'état de droit, Cécile Duflot.
Elle a le droit d'être candidate, ça c'est sûr, d'ailleurs. Elle l'est, mais ça ne veut pas dire que ça n'abîme pas la démocratie. Faut quand même se remettre un peu les choses en place, que je pense qu'on est dans un monde, y compris dans le monde politique, où je les regarde, où en disant, mais oui, mais elle montre du courage, etc. Enfin, il y a très peu de gens qui sont condamnés en France. Très très peu. Des gens qui sont condamnés une fois dans leur vie à la prison, c'est peut-être 4% des Français. On est 96% à jamais avoir été condamné à la prison et à ne être jamais condamné à la prison. C'est l'immense majorité des Français. L'immense majorité des Français, ils payent leurs impôts, ils sont honnêtes, même quand ils ont des contraventions, ils les payent. Et donc, je pense qu'il y a un petit décalage entre cette idée ce que ça signifie, cette condamnation, cette double condamnation, parce qu'elle a été deux fois condamnée. Elle a le droit d'être encore candidate. La procédure n'est pas allée à son terme, mais elle a été deux fois condamnée, et pas pour des faits anecdotiques. Donc, évidemment que ça pose un énorme problème. Et d'ailleurs, si c'était une autre condamnation, si elle avait, tué quelqu'un, tout le monde se dirait que c'est bizarre. Même si, légalement, elle aurait le droit d'être candidate, on pourrait quand même se poser la question.
Charles, le droit, mais est-ce qu'elle devait le faire?
Bah, en tout cas, je trouve ce raisonnement de Cécile Duflot un peu bizarre parce que 99% des gens effectivement ne vont pas en prison, mais ils ne font pas de politique. Il n'y a qu'en politique où vous êtes perquisitionné en plein discours à l'Assemblée nationale, par exemple, comme ça a été le cas pour Olivier Véran. Il n'y a qu'en politique où les enquêteurs ouvrent vos paquets de cornflakes pour vérifier que vous cachez rien dedans, ce qui a été le cas pour Sibeth Ndiaye. Il n'y a qu'en politique qu'on court le risque in abstracto et sans vraiment savoir ce qu'on pourrait nous reprocher d'être perquisitionné à 6h du matin par des enquêteurs qui vous traitent comme si vous étiez Pablo Escobar. Donc oui, effectivement,
Ces perquisitions dont ont été victimes Jean-Luc Mélenchon, par exemple, 6 heures du matin chez
souvenez-vous,
lui.
Souvenez-vous, par exemple, de la perquisition visant Jean-Luc Mélenchon. On s'est moqué de son attitude ce jour-là, mais c'est pas drôle d'être perquisitionné. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y a quand même un petit tropisme des juges vis-à-vis des hommes et femmes politiques, ce qui n'empêche pas que les hommes et femmes politiques doivent bien sûr être exemplaires, et ce que soulève le cas de Marine Le Pen, qui sont d'ailleurs des faits qui ont été reprochés aussi à Bayrou et à Mélenchon. Mélenchon n'a finalement pas été poursuivi. Bayrou, ce sont ses proches qui ont été condamnés, pas lui directement, mais ses proches l'ont été quand même. Ça soulève la question très complexe et qui n'est pas résolu en France, du financement politique. Parce qu'il faut de l'argent pour faire de la politique. C'est très difficile d'en faire sur le plan logistique. Et dans ces cas-là, effectivement, certains partis font des tripatouillages. Alors, quand on a des élus au Parlement européen, on fait travailler...
Cécile,
je ne les excuse pas, mais je ne pense pas, si vous voulez. Ce que je veux dire, simplement, parce que je réponds à votre question, est-ce qu'il fallait que Marine Le Pen soit candidate ? Je ne pense pas que ce qui était reproché à Marine Le Pen dans ces faits-là, à savoir d'avoir employé des gens sur le quota du Parlement européen pour travailler pour le parti en France.
Non, pas que pour le parti.
Pour eux, à titre personnel, voilà. À la marge, je sais pas, comme garde du corps. Bon, je suis pas sûr que ça justifiait l'empêchement pour la principale figure d'opposition, malgré tout, en France.
Est-ce qu'il faut
candidate à la présidentielle.
Est-ce qu'il faut, Cécile Duflot, l'empêcher de faire campagne? C'est-à-dire que les militants qui l'ont accueilli sur le terrain dans la Sarthe avec des casseroles contraignant son déplacement à devoir être écourté. Est-ce qu'il faut l'empêcher sur le terrain là?
Qu'il y a des gens qui soient choqués, c'est normal. Et par ailleurs, je voudrais revenir sur ce que dit Charles sur les politiques. Il n'y a qu'à eux que ça arrive. Mais il y a des milliers d'élus dans ce pays qui sont jamais perquisitionnés. Pardon, mais enfin, il y a des milliers d'élus, eux aussi, qui sont honnêtes.
Ça dépend à quel
et
niveau.
Je voudrais terminer. Oui, mais sauf que, en fait, c'est normal qu'il y ait une exigence supérieure. Moi, j'ai été une femme politique et je peux vous dire, il y a des gens qui regardaient ce que je mangeais en regardant les courses dans mon caddie. Il y a des gens qui me prenaient en photo. C'est désagréable. Je vais pas vous dire que c'est agréable. Mais c'est normal à partir du moment où vous représentez les gens et où vos décisions vont peser
là,
sur
gens,
la vie des
pas
gens.
Les juges, Cécile.
Oui, d'accord. Mais du coup, que vous soyez, que les juges fassent de façon très sérieuse leur travail sur des gens qui ont vocation à prendre des décisions, qui ont du pouvoir, des décisions qui impactent la vie des gens, parfois qui donnent des leçons aussi, c'est assez logique. Enfin, je veux dire, ça fait effectivement partie des inconvénients palliés par des avantages, mais je veux m'inscrire en faux sur le fait aussi que la question de l'argent, c'est important. Et c'est vrai d'ailleurs qu'après des scandales, il y a eu un financement public de la vie politique. Ce qui est vrai aussi, c'est que les campagnes présidentielles et leurs résultats sont souvent corrélés, liés au montant d'argent qui est dépensé pour faire campagne. Et ça, c'est une vraie question. Donc peut-être qu'on peut améliorer le financement de la vie politique, que chaque citoyen puisse décider, par exemple, qu'une part de ses impôts va à une organisation politique.
Non, je pense d'abord... Souvenez-vous que Kamala Harris avait récolté plus d'un milliard de dollars de budget pour sa campagne et qu'elle a quand même perdu contre Trump qui avait récolté en tout, je crois, 350 millions de dollars. Non, mais ça veut dire que le financement, le montant qu'on a pour faire campagne n'est pas forcément ce qui détermine à la fin le choix des électeurs et d'ailleurs, fort heureusement. Moi, je pense que tout est une question de mesure, de proportionnalité. Je pense d'ailleurs à cet égard, même si je vois bien qu'il y a y compris dans la population qui est en quête d'exemplarité et d'une certaine sévérité de la justice, il y a une espèce de dépit face à cette possibilité qui est laissée à Marine Le Pen d'être candidate parce qu'on se dit, au fond, on peut détourner joyeusement 3 millions d'euros et somme toute, il n'y a pas de vraies conséquences.
Voilà.
Je pense que les juges d'appel ont jugé d'une manière assez fine en condamnant quand même et en sanctionnant quand même Marine Le Pen, parce qu'il y a bien un moment où elle va devoir mettre son bracelet électronique et tourner en rond chez elle dans les Yvelines en attendant que ça passe, plus les sanctions financières, plus le fait que malgré tout, quand vous êtes condamné, ça abîme votre image sur le plan politique. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui en fait ne se sont pas relevés de condamnation judiciaire. Donc elle, la justice l'a sanctionnée, mais elle a voulu faire la juste part des choses, prendre la mesure des choses, en se disant que peut-être ça ne méritait quand même pas d'interférer dans une élection aussi capitale que la présidentielle.
Laisser les Français juger, ça c'était écrit noir sur blanc, alors pas juger, mais laisser le pouvoir démocratique et le suffrage universel, c'était un des arguments effectivement temps des juges. Merci beaucoup Charles Consigny, voix de droite, Cécile Duflo, voix de gauche, pour ce débat du vendredi. Il est 7h58, on se retrouve dans un instant, la météo et le journal, et à la une du journal de 8h, ce sera évidemment les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde. Éric Dimeco et Daniel Riolo seront d'ailleurs avec nous juste après. On vous attend au 32-16 pour venir partager avec eux. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h, passé de 1 minute. Très belle journée sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Et ce matin, c'est difficile pour ceux qui ont fait la fête toute la nuit après la victoire des Bleus 2-0 contre le Maroc, c'était hier soir. Des Bleus impitoyables qui iront à Dallas, mardi, pour jouer leur demi-finale. C'est dur aussi ce matin parce qu'il fait chaud. Le gouvernement déclenche, vous allez voir à l'instant, un plan inédit face à la canicule qui s'étend. Et alors ça, c'est le transfert de l'année et c'est pas du football. La France a livré dans la nuit sa célèbre tapisserie de Bayeux à nos voisins d'Angleterre.
Ça ne pouvait pas mieux tomber. C'est mardi, le 14 juillet, que la France jouera sa demi-finale du Mondial.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
À Dallas, que les Bleus joueront cette demi-finale, soit contre l'Espagne, soit contre la Belgique, les deux équipes qui s'affronteront ce soir à la Coupe du Monde. Au lendemain donc de la victoire de nos Bleus 2-0 contre le Maroc, avec un but de Kylian Mbappé et un autre d'Ousmane Dembélé, les Bleus ont encore impressionné. On a vécu ça, tout ça sur RMC, et ils ont même déclenché des scènes de liesse qu'on adore voir cette nuit. C'était à Paris, dans le secteur des Grands Boulevards.
À choisir, l'Espagne, c'est pour la difficulté, mais la Belgique, j'aime bien leur foutre une raclée. Ce serait un plaisir de taper nos amis belges. Donc j'espère que ce sera la Belgique qui passera.
Oh non, parce que moi, les Espagnols, j'étais à l'Euro en demi-finale. Je les ai vus ce qu'ils ont fait. C'est le moment pour nous de leur montrer ce qu'on peut faire.
On prend celui qui vient, on verra. Et celui qui vient, on sera prêt.
Alors il y a beaucoup de confiance, on l'entend chez les supporters de l'équipe de France, mais c'est presque normal, j'ai envie de dire. Jean-Louis Tour, vous êtes en direct de Boston ce matin pour RMC après avoir commenté le match hier soir. Cette équipe de France impressionne le monde entier tellement elle fait déjouer ses adversaires.
Oui, parce que le rouleau compresseur français continue de tout emporter. Les matchs suivent et se ressemblent, comme contre la Suède en 16e de finale, le Paraguay en 8e, le Maroc en quart de finale a paru totalement inoffensif. Pourtant, Kylian Mbappé n'a pas voulu s'emballer hier après le match sur cette équipe de France version 2026, quand on lui a demandé si c'était la plus forte dans laquelle il avait joué.
C'est pas la plus forte. J'ai été champion du monde et j'ai été vice-champion du monde. Cette équipe, elle est ni champion du monde, ni vice-champion du monde. Donc à l'heure actuelle, c'est pas la plus forte. C'est celle qui a le plus de potentiel. Celle avec laquelle on peut se projeter le plus facilement. Où il y a beaucoup de qualités. Elle te permet de rêver, bien sûr, mais la plus forte. J'ai toujours dit que les équipes fortes, c'est les équipes qui gagnent. Et jusqu'à preuve du contraire, je vois pas de coupe dorée à côté de moi, donc c'est pas l'équipe la plus forte.
Ce sera pour plus tard peut-être la coupe dorée à côté. Mbappé qui est sorti après avoir pris un coup par précaution hier selon nos informations. Sa cheville qu'il a déjà fait souffrir dans le passé sera suivie de près par le staff médical. Sa présence n'est tout de même pas remise en cause pour la demi-finale. Ce sera soit contre la Belgique, une équipe qui nous réussit bien sur les dernières compétitions, soit contre l'Espagne qui elle nous avait éliminé à l'Euro il y a 2 ans en demi-finale.
On s'en souvient effectivement, Jean-Louis Tour en direct donc des États-Unis ce matin pour RMC. La presse étrangère est encore dithyrambique avec nos Bleus ce matin. Les Espagnols justement, ils trouvent que les Bleus sont encore meilleurs que lors des derniers tournois. Et les Allemands, c'est les plus élogieux, ils écrivent que c'est, je cite, la prise d'assaut la plus irrésistible depuis la Bastille. Alors vous savez qu'il y avait un très gros dispositif de sécurité qui était déployé partout en France pour que la fête reste une fête. Hier soir, BFM TV parle d'une nuit sans heure à Paris, 10 interpellations en région parisienne, quelques incidents rapportés par la presse locale à Nice et à Grenoble par exemple. Et finalement, c'est à Londres, en Angleterre, qu'il y a eu des heurts entre supporters et forces de l'ordre visées par des jets de bouteilles et des tirs de mortier. Tiens, puisqu'on parle de Londres, c'est une des infos du matin et c'est même un événement. La France a livré, durant la nuit, un de ses trésors nationaux, à savoir la célèbre tapisserie de Bayeux, qui date du Moyen-Âge. On en parle depuis des mois de ce transfert. Elle est arrivée, cette tapisserie, au British Museum. La France va la prêter, en fait, pendant un an aux Anglais. Romain Houck, pour RMC, c'est un tel joyau qu'elle a voyagé dans des conditions de sécurité incroyables.
Oui, étant l'œuvre d'une extrême fragilité. La tapisserie de Bayeux, elle date, tenez-vous bien, du 11e siècle. C'est une broderie en laine de 70 mètres de long qui a traversé les époques pour arriver jusqu'à nos jours. mais vous l'imaginez non sans quelques égratignures. L'œuvre qui retrace la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant est déjà écorchée à près de 30 endroits et les experts dénombrent pas moins de 10 000 petits trous. Il faut dire qu'elle est aussi fine que de la dentelle. Bref, de quoi donner des sueurs froides aux défenseurs du patrimoine qui redoutaient que ce voyage n'aggrave encore son cas. C'est donc dans un double caisson anti-vibration spécialement conçu que la tapisserie a quitté sa Normandie pour voyager jusqu'à Londres dans un camion réfrigéré à 20 degrés, 50% d'humidité sous escorte policière. Même la date du trajet a été tenue secrète jusqu'au dernier moment. Le voyage alors s'est très bien passé, nous dit le ministère de la Culture, dont l'une des représentantes a accompagné dans le cortège l'œuvre jusque chez nos amis britanniques. Désormais, elle va être préparée au British Museum avant d'être finalement exposée au public pour près d'un an à partir du 10 septembre prochain.
La canicule continue de tisser sa toile ce matin. Elle s'étend. 9 départements de l'Ouest sont en alerte rouge, 76 autres en orange. Et alors Géraldine Demory, Météo France prévient déjà que la vigilance rouge va s'étendre demain à 2 autres régions, à savoir Île-de-France et Centre-Val de Loire.
Eh ben encore une fois, c'est le scénario du pire qui est en train de se mettre en place avec cette goutte froide au large du Portugal, donc qui va agir vraiment comme une pompe à chaleur. C'est-à-dire qu'elle va aspirer l'air qui est extrêmement en chaud du nord de l'Afrique et le faire remonter sur la France. Dans les prochains jours, on aura régulièrement 40 degrés entre la Garonne et la Loire. Les nuits vont être étouffantes. Les températures ne vont pas descendre sous les 22, voire parfois les 25 degrés, avec un pic attendu entre dimanche et lundi. Au niveau national, on devrait se rapprocher des pics historiques des 24 et 25 juin dernier, sachant que pour déclarer une vigilance rouge canicule, il n'y a pas que les températures qui rentrent en compte. Il y a aussi l'attention sur les hôpitaux et le contexte, puisqu'on va avoir de grands départs en vacances et en week-end du 14 juillet.
Et d'ailleurs, avant un nouveau comité interministériel prévu ce matin consacré à la chaleur, et bien sans attendre, il y a le gouvernement qui déclenche un plan inédit face à cette chaleur, un plan hors sec en raison de cette canicule pour mettre à l'abri notamment les personnes les plus vulnérables. Alors dans tous ces départements-là en alerte rouge dont on parle, eh bien aux heures les plus chaudes de la journée, les plateformes Uber Eats et Deliveroo bloquent désormais les livraisons de repas dans les grandes villes. C'est une décision qui a été prise un peu plus tôt dans la semaine à la demande du ministère du Travail pour protéger les livreurs qui circulent souvent à vélo et sont parmi les plus précaires. Cassandre Brou en a interrogé pour RMC.
Installé en plein soleil, à côté de son scooter, Amine, 22 ans, attend qu'une commande soit passée.
Ça me dérange pas la chaleur. Je vivais en Afrique, 37 degrés, je la voyais tous les jours.
Ce jeune livreur enchaîne les commandes toute la journée. Il ne comprend pas la décision des plateformes de suspendre les livraisons entre 14h et 18h en cas de vigilance rouge canicule.
C'est au livreur de décider s'il veut travailler. Il y a des gens qui vont gagner leur vie, il est en décharge dans des dettes.
Mamadou, lui, n'envisage pas une pause aussi longue pendant l'après-midi.
Quand tu es assise comme cela pendant les 4 heures du temps, tu peux pas aller te reposer chez toi, puisque chez toi, c'est loin. Tu vas perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi.
Entre 14h et 18h, est-ce que c'est un moment où vous avez beaucoup de commandes?
Oui, les gens, ils ont besoin de ça. Des trucs fraîches, boissons, des salades.
Mais pour Fabien Tosolini, délégué national du syndicat d'Union Indépendant, il y a urgence à protéger les livreurs pendant ces fortes chaleurs.
On ne peut pas sacrifier la santé au profit de la rentabilité. Il faut être en mesure de garantir la santé du livreur et la rémunération du livreur.
Des négociations avec les plateformes doivent avoir lieu en septembre prochain pour tenter d'obtenir une compensation financière en cas de suspension des commandes pendant la canicule.
Alors les incendies toujours qui ont des conséquences sur les vacances, un camping, 400 personnes évacuées dans la Drôme hier dans les montagnes autour de Die où le feu a parcouru près de 3500 hectares. Il y a 4000 personnes qui sont bloquées encore ce matin en Savoie, à Pralognan-la-Vanoise, la route d'accès en fait qui est coupée en raison de l'incendie toujours en cours à planer dans la montagne en face de Courchevel. Et ce matin, il y a seule la Haute-Garonne qui est en alerte maximale pour les risques d'incendie. Un petit peu de répit donc dans les autres départements. Il y a aussi la carte de la route, c'est un des week-ends les plus chargés de l'année qui commence rouge au niveau national, noir en région Auvergne-Rhône-Alpes. Demain, ce sera noir dans la moitié du pays, prévient déjà Bison Futé. Et puis la route du Tour de France également, qui quitte les Pyrénées aujourd'hui, direction Ajetmaux pour... Départ d'Ajetmaux, pardon, pour une étape de 175 km, direction Bordeaux, un sprint attendu sur les quais. Maillot jaune, qui est de retour sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar. Il a écrasé la course hier dans la sixième étape au Tourmalet, en collant 2 minutes 40 à son principal concurrent, le Danois Jonas Vingegaard, et 3 minutes même aux autres favoris.
C'était le journal de Quentin Vinet. Je voudrais prendre un petit instant pour vous remercier du fond du cœur, parce que les audiences viennent d'être annoncées. Vous savez, c'est à peu près tous les deux mois et demi qu'on a les audiences
de la radio et vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter. Vous êtes 2,8 millions chaque jour sur RMC et à titre personnel et vraiment au nom de toutes les équipes d'Apolline Matin, un merci tout particulier parce que vous êtes 45 000 de plus, 45 000 nouveaux auditeurs que l'on a donc gagnés, qui nous ont rejoints depuis un an, sur un an, 45 000 de plus. C'est énorme et dans le contexte actuel, c'est une vraie marque de confiance que vous nous faites. On vous en remercie vraiment du fond du cœur et on est là avec vous, pour vous et avec vous en particulier au 32-16 bien sûr. Merci d'être venu nous écouter et de nous accompagner tout au long de cette saison. Merci aussi de continuer à écouter RMC. L'équipe des sports en particulier fait un travail extraordinaire en ce moment. On pense particulièrement à eux. Ils sont au rendez-vous. Vive RMC. Il est 8h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Évidemment, ce matin, on va vibrer ensemble dans un instant, pas d'Arnaud de Manche, mais on va revenir sur la Coupe du Monde. Les Bleus qualifiés pour les demi-finales avec Eric Dimeco, bien sûr, en direct avec nous. Daniel Riolo, qui a pas beaucoup dormi, mais qui est avec nous aussi. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Daniel, quel adversaire pour les Bleus en demi? On va évidemment y revenir avec vous tous aussi qui nous appelez au 32-16. Venez partager. Notez également qu'à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. Retour de la guerre en Iran et puis surtout Donald Trump, visiblement ciblé par les services secrets iraniens qui ont des projets pour l'assassiner. Réponse et explication donc à 8h30. Restez bien avec nous, les 8h11.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h14 sur RMC et RMC. Sorry, les bleus qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Vous l'avez vécu évidemment en direct sur RMC. Ce sera la Belgique ou l'Espagne face aux Français et ce sera le 14 juillet, mardi prochain. Bonjour Eric Dimeco.
Bonjour Apolline.
Eric, comment ça va? Notre fil rouge et notre porte-bonheur, j'ose le dire, Eric, depuis le début de la compétition. Et Daniel Riolo, salut Daniel, journaliste RMC Sport évidemment.
Bonjour.
Les Bleus tranquilles hier, ça augure de bonnes choses pour la suite Eric?
Ah ben oui, ben on est dans nos objectifs pour le moment, hein. Alors d'une facilité déconcertante, mais on savait que cette équipe-là faisait partie des favoris, que le minimum syndical c'était une demi-finale, que dans cette nouvelle formule, ben c'est peut-être à ce moment-là qu'on rencontrerait les grosses équipes. Voilà, ce qui est impressionnant, c'est la facilité et la force que dégage cette équipe-là, et surtout le virus qu'elle met dans le cerveau des adversaires. Je trouve que c'est peut-être le plus important. Parce que
le mental, quoi.
Non, le fait que
Le Maroc. Ça aussi, je trouve les sourires. C'est-à-dire qu'on a l'impression
qu'ils
sont désarmants.
Oui.
Ils sont désarmants.
Oui, mais on avait parlé du Maroc avant ce match-là,
évidemment,
en disant que c'était une équipe qui jouait avec un coach qui avait des certitudes et qu'il allait les appliquer contre nous. Ben non, il a mis une équipe parce qu'il a eu peur de l'équipe de France. Et ça, c'est aussi une force de notre équipe.
Daniel.
Oui, je crois que le mot qui va revenir le plus souvent dans les commentaires d'après-match et dès hier soir, c'est la facilité avec laquelle l'équipe de France s'est qualifiée. Oui, c'est surprenant. C'est pas la première fois que la France va jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Si on prend les autres fois où c'est arrivé et si on arrive à se souvenir des matchs, 98, le quart de finale, le France-Italie, irrespirable. En 2018, le France-Uruguay, très compliqué malgré le score, mais très compliqué jusqu'au bout. On avait tremblé. Là, quart de finale de Coupe du Monde. France-Maroc, pas de suspense. Mais le pas de suspense, vous le sentez dès le début. Et depuis le
ça
début.
Ça se passe
depuis le début de la compétition.
Uniquement de notre côté, quoi.
Depuis le début de la compétition. Alors, le problème, c'est qu'au début, on disait, bon, les matchs sont faciles. Parce que oui, cette nouvelle formule, en fait, elle a eu, pendant qu'on racontait à tout le monde que c'était formidable, qu'il y ait plein de petits pays, oui, sauf que ça protège les gros aussi. Donc et ça on le dit pas assez. Donc les gros ont été protégés. Donc il était difficile d'évaluer les bleus parce que ah bah jouer l'Irak, ah ben bah, la Norvège qui avait fait tourner, qui avait mis une équipe B. Ah puis alors après on avance et l'Irak et la Suède c'est pas fort. Bon le Maroc le niveau s'est élevé un petit peu, mais on s'est bien rendu compte que c'est pas assez. C'est pas assez. C'est comme si Pogacar a fait une équipe de montagne hier et il s'est promené. Bah, les bleus c'est pareil quoi. C'est pour lui c'est un faux plat. Et pour les autres qui galèrent derrière, c'est de la montagne. Et ben les bleus, c'est pareil. C'est un faux plat hier. À peine. Même pas. Et donc, vous allez arriver en demi-finale. Et en demi-finale, on attend, on dit, bah alors qui? Mais il manquerait plus que les Belges fassent un exploit. Un match un peu tordu qui sorte l'Espagne. L'Espagne, pour le coup, ça serait un vrai adversaire compliqué. Voilà. Donc, en demi-finale, la Coupe du Monde, elle peut commencer pour les bleus. Ils sont trop forts. Mais c'est simple, vous regardez les joueurs. C'est que des joueurs qui jouent dans des gros clubs. C'est simple, au bout d'un moment,
on est trop fort, Eric.
C'est les individualités. On a les individualités les plus fortes au monde.
On est trop fort. Alors évidemment, ça va se jouer aussi ce soir, puisque Belgique ou Espagne, on aura la réponse. Comment vous projetez-vous, Eric?
Oui, bah là pareil, il y a une équipe qui a l'air au-dessus de l'autre, mais avec peut-être moins de certitude, notamment offensivement. Je les ai trouvés plutôt inoffensifs offensivement contre le Portugal, c'est-à-dire que Yamal a pas encore retrouvé sa vitesse de croisière et ils ont pas la même force de frappe devant que nous, donc peut-être qu'ils vont tomber dans un match galère comme contre le Portugal, mais moi si je devais jouer ma maison, je la jouerais sur l'Espagne quand même. Mmh. Mais on souhaite à nos amis belges de se qualifier, ça donnerait un joli.
Il joue sa maison là, il y va Eric. Daniel.
Ah oui, de toute façon, le jeu, c'est dans ces cas-là, c'est si on vous pousse. Donc si on vous pousse, bah oui, on met les maisons et la voiture sur l'Espagne, parce que sur le papier, c'est plus fort. Maintenant, les Belges, oui, avec une tactique qui consisterait à attendre les Espagnols et les contrer, pourraient faire l'exploit. Mais l'Espagne, là, pour le coup, qui arriverait face à la France, là, on se dirait, enfin, ça va être du costaud.
Bon, Daniel et Eric, il y a Kevin qui va vous calmer un peu, parce que je crois que Kevin qui nous appelle d'Agen. Bonjour Kevin. Vous dites c'est pas gagné.
Alors, c'est pas que je me dis que c'est pas gagné. Effectivement, je suis un peu d'accord avec Daniel et Eric sur le fait que c'est d'une facilité assez déconcertante comme on les voit jouer. On peut paraître un peu arrogant niveau football, mais c'est la force de cette.
C'est de la lucidité. C'est de la lucidité, Kevin.
C'est ça, mais c'est vrai.
Et je trouve que Guy Stéphan apporte cette lucidité qu'il a toujours apportée depuis 50 ans qu'il officie aussi aux côtés de Didier Deschamps. Malgré tout, j'ai un petit peu peur sur certains points, notamment sur le côté rugueux qu'on peut mettre face à nous. Là où on a été en difficulté, c'est quand ça devient un peu plus rugueux. Bon, un tout petit peu hier soir, mais ça s'est plus noté sur le Paraguay. Et là, on a du mal à poser notre jeu, nos individualités. Et même si on pourrait se dire qu'en face, les équipes pourraient être 14 ou 15, on gagnerait quand même, parce que c'est ce que je pense. J'ai un petit peu peur de ce côté rugueux. Et on sait très bien que ce soit l'Espagne ou la Belgique. Ils ont changé leur façon de jouer au football. Et je pense que face à la France, avec un derby un petit peu européen, on va prendre un peu de ce côté un peu plus costaud dans les échanges.
Un dernier mot là-dessus ? Daniel?
Non, je crois pas, parce que c'est vraiment pas du tout le style de jeu de l'Espagne. L'Espagne cherchera justement à imposer son jeu collectif, et il y a que ça qui pourrait embêter les Bleus, mais encore une fois.
Et quand ça nous conviendra mieux, peut-être.
Ça nous conviendra mieux, les individualités qu'on a, les quatre de devant peuvent faire vraiment très mal, et les Espagnols, Eric a commencé à le dire, Lamine Yamal, qui était censé être l'une des stars de cette Coupe du Monde, pour l'instant n'est pas au rendez-vous. Il est arrivé un petit peu blessé. Et il y avait un autre joueur qu'on attendait de l'autre côté, Nico Williams, qui lui n'est pas là du tout. Donc les Espagnols, offensivement, sont pas pour l'instant redoutables.
Eric Dimeco, Daniel Riolo et Kevin, merci à tous les trois. Il est 8h20 et c'est l'heure de féliciter Camille. Bonjour Camille.
Oui, bonjour.
Bravo, vous êtes livreur, je crois, dans les Landes et on vous offre vos vacances.
Ah bah super, merci beaucoup.
On est trop contents, c'est vous qui avez gagné les vacances. Merci de votre fidélité à RMC.
Oui, mais merci à vous.
Et vos vacances, vous avez... Allez-y, vous vouliez dire un petit mot peut-être.
Non, juste que je suis livreur depuis 2 semaines et donc je suis client fidèle de RMC depuis 2 semaines, quoi.
Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait, juste au bon moment. Camille, félicitations, vous avez donc gagné ce séjour d'une valeur de 2000 € dans les clubs et hôtels Bellambra. C'était le dernier jour pour les gagner, donc vous avez bien fait. Vous allez pouvoir choisir parmi 45 destinations. Bellambra qui s'occupe des enfants, des activités, des repas, c'est le tout compris premium. Félicitations à vous, il est 8h21, dans un instant, c'est le face-à-face. RMC et BFM TV. Mon invité, c'est Gilles Kepel, le spécialiste du Proche-Orient. On l'a appris cette nuit. Donald Trump, visiblement ciblé par l'Iran, qui souhaite tenter, via ses services secrets, de l'assassiner. Les explications et l'analyse de Gilles Kepel.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
Et la France, vous le savez bien, en demi-finale de la Coupe du Monde de football, qualifiée hier soir face au Maroc de 0, but de Kylian Mbappé, un autre Ousmane Dembélé. La demi-finale, ce sera mardi soir, le 14 juillet, face à l'Espagne ou la Belgique qui s'affronteront ce soir. En termes de sécurité, 10 interpellations en région parisienne. Voilà pour le bilan des heurts aussi signalés par la presse locale à Nice et à Grenoble. Et alors malheureusement, la soirée a été endeuillée près de Maubeuge. C'est le journal La Voix du Nord qui révèle ce matin la mort d'une adolescente de 17 ans, tuée après être tombée d'un camion. Elle était montée sur un tracteur, en fait, avant de trébucher et d'être percutée par un véhicule. Le gouvernement déclenche ce matin un plan hors séquinédie face à la chaleur pour mettre les personnes les plus vulnérables à l'abri, notamment avec une nouvelle réunion consacrée à la canicule dans la matinée. Canicule qui s'étend 9 départements de l'Ouest en alerte rouge ce matin. Demain, cette vigilance rouge va s'étendre à 2 autres régions, à savoir Île-de-France et Centre-Val de Loire. Ce matin, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, fait savoir que 6000 climatiseurs ont été livrés dans les hôpitaux. C'est moins que les 30 000 qui avaient été promis par le Premier ministre pour le début de la semaine. Les températures pour cet après-midi, on attend entre 28 à Biarritz et 39 à Lyon. En ce jour de départ en vacances, une des journées les plus chargées de l'année qui commence.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, mon invité, c'est le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. Donald Trump, ciblé par les Iraniens, menacé d'assassinat. On y revient dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient. Et on a bien besoin de comprendre où est-ce qu'on en est au fond. Est-ce que c'est le retour de la guerre après des frappes à nouveau, à la fois de la part de l'Iran, mais aussi de la part des États-Unis? Et puis cette information, c'est les confrères et américains qui le disent, mais citant des sources israéliennes qui auraient alerté Donald Trump sur le fait qu'il soit la cible des services secrets iraniens qui souhaiteraient l'assassiner. C'est crédible?
Alors ça s'inscrit dans un contexte où il y a effectivement beaucoup de tensions, vous l'avez rappelé. Un phénomène tout à fait surprenant, c'est que vous l'avez vu, Donald Trump est allé au sommet de l'OTAN à Ankara dans son palace volant offert par le Qatar, qui avait un peu, on avait un peu remis l'avion en place, mais on n'avait pas véritablement fait un avion aussi performant en termes de sécurité et d'avion militaire, d'une certaine manière, que le précédent, ce qui fait qu'on l'a fait revenir dans le vieil avion.
Il a changé d'avion au milieu, effectivement, de son de ce sommet de l'OTAN. Il est reparti avec le traditionnel Air Force One, semble-t-il, parce qu'il craignait éventuellement que le premier ne le protège pas suffisamment.
Voilà, ça semble de toute façon être le cas, indépendamment de toute velléité d'attentat prévu. Par ailleurs, on voit bien, on y reviendra tout à l'heure, que à l'intérieur des dirigeants iraniens aujourd'hui, ça tire à U et à Dia, et que vous avez une tendance maximaliste qui essaye de l'emporter sur ceux qui négocient, dans un contexte où il y a de moins en moins un guide suprême. On l'a enterré, ce guide suprême, avec chacun essayant de se prévaloir de son aura ou de son onction pour faire passer ses causes, mais le fils n'était pas là.
Donc, on ne l'a toujours pas vu.
Donc, il sert de totem, si vous voulez, pour faire passer les choses. Mais ça permet à toutes sortes de factions de se disputer.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de guide suprême, d'ailleurs, au fond? Véritablement, tout, techniquement?
C'est dans le chiisme, il y a la notion de l'imam caché. Donc, d'une certaine manière, il l'incarne à sa façon. Mais on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, ceux qui sont ici n'en savent rien. Et puis, bien évidemment, ça s'inscrit dans un regain de tension aujourd'hui. Et le fait que Israël soit l'État qui est surtout annoncé ce genre de choses va bien dans une tentative que font les Israéliens aujourd'hui de revenir en grâce dans le premier cercle de Donald Trump, puisque au fur et à mesure que la négociation avançait, Bibi Netanyahou se faisait tordre le bras de plus en plus. Bibi Netanyahou, dont vous avez certainement vu que pour la première fois il est en retard dans les sondages pour
les élections. Dans le cadre de l'élection.
Voilà, de l'automne, il est doublé par le général Eisenkot, d'origine séfarade.
Donc il pourrait être battu aux prochaines élections, Benjamin Netanyahou?
Enfin, une élection, c'est le jour où il y a eu les élections. Pas toujours, du reste, on le sait rarement avant, mais là, c'est la première fois.
En tout cas, il est en difficulté pour la première fois. Gilles Kepel, revenons quand même à cette question, effectivement, de cette menace qui pourrait être sur la vie de Donald Trump. Il l'a d'ailleurs reconnu lui-même, mais avec toujours une forme de légèreté étonnante, disant presque qu'il se gargarisait d'être la cible numéro un de l'Iran. Les phrases d'ailleurs prononcées, les slogans « mort à Trump » ont été entendus à de très nombreuses reprises, y compris écrites sur des banderoles
pendant les funérailles.
Les fameuses funérailles.
quand je vous demandais est-ce que c'est à prendre au sérieux, est-ce que c'est plus aujourd'hui qu'hier, c'est-à-dire que est-ce que c'est une manière pour Israël de dire voilà, on est en effet dans le jeu, ou est-ce que c'est parce que cette fois-ci cette menace est plus sérieuse que d'habitude?
Bah, ça peut être les deux. Il est clair que Netanyahou a aujourd'hui intérêt à montrer que aller négocier avec les Iraniens, c'est vraiment trop dangereux et qu'il faut garder ses alliés traditionnels, c'est-à-dire Israël et surtout Netanyahou qui est en difficulté. Par ailleurs, on voit bien l'exacerbation de la tension à l'intérieur des composantes de la société iranienne. Vous avez vu ce qui s'est passé, c'est que l'Iran, en fait, et les États-Unis ont signé ce Memorandum of Understanding, cet accord, déclaration préalable, et qui indiquait notamment que l'Iran garantissait la liberté de passage pendant les 60 jours. Mais l'interprétation de l'Iran, c'est que nous la garantissons. Donc, tout ce qui se passe en dehors de notre passage, nous l'interdisons.
Et donc, les bateaux, soit vous passez au large, soit vous passez effectivement au plus près des côtes iraniennes. Et dans ces cas-là, ok, mais au moins vous êtes sous notre contrôle.
Vous avez demandé la permission et vous avez subi l'inspection, etc. Soit vous passez de l'autre côté en Oman. Alors, au départ, les Iraniens, c'était entendu...
La partie sud, effectivement, de
ce qu'on appelle le Musandam, c'est-à-dire le cap qui est omanais dans le détroit d'Ormuz, au sud. Et Oman, c'était plus ou moins entendu avec l'Iran, qui avait dit on va partager les frais de péage, etc. Et on imagine que la pression gigantesque des autres pays du Golfe, notamment du Qatar, des Émirats et autres, a été telle, ainsi que les États-Unis, que les Omanais ont fait un pas en arrière et désormais ont vu avec les Américains et les autres golfiotes le fait qu'il y ait cet autre passage qui est libre de mines actuellement dans lequel les bateaux pouvaient passer.
Mais c'est là que 3 navires ont été touchés, visés par l'Iran.
Et que l'Iran vise des navires de nationalités qui ne sont pas parties au conflit, d'une certaine manière, ça c'est dangereux. Mais là, le point de force, c'est que c'est un méthanier qatari qui a été visé. C'est-à-dire, un méthanier, c'est un bateau qui transporte du gaz, en l'occurrence du LNG sous pression, et c'est une bombe flottante. Si vous coulez un pétrolier, ça fait une marée noire, c'est déplorable, mais ça n'ira pas plus loin. En principe, là, ça risque d'avoir des conséquences de déflagration.
L'explosion peut être considérable.
Absolument. Alors, ce sont des bateaux qui sont surprotégés, mais néanmoins, c'est un signe qui n'avait jamais été atteint. Et surtout, pourquoi le Qatar? Alors que le Qatar, c'est le pays qui est le plus proche de l'Iran dans l'immigration.
C'est celui qui tente de, justement,
et c'est celui qui devrait être le premier à payer, puisque dans la perspective de dégel de fonds iraniens gelés, il y en a 6 milliards qui sont de dollars qui sont au Qatar et qui étaient devaient être mis sur la table. Donc on voit bien que à l'intérieur du système iranien, vous avez aujourd'hui une tendance, probablement à l'occasion des funérailles, qui essaye de reprendre le dessus et qui dit non, on va faire la pression militaire maximale avec tous les moyens, parce que sinon, si on lâche, on va perdre. Le détroit d'Ormuz, c'est notre garantie de sécurité. Si on commence à laisser passer des bateaux, même du côté iranien, alors du côté omanais, pardon, alors nous n'avons plus la possibilité de contrôler.
Gilles Kepel, je vais précisément essayer de comprendre, au fond, du point de vue iranien et du point de vue américain, ce qui se joue du point de vue iranien, si je vous comprends bien, c'est aussi une question d'influence au sein même du pouvoir iranien. Qui décide aujourd'hui? Qui décide, par exemple, de tirer sur ces 3 bateaux? Qui décide de remonter la pression? Qui a les manettes?
Il y a une instance qui le revendique, qui est ce qu'on appelle Khatam al-Anbiya, c'est-à-dire le sceau de la prophétie, qui est le nom du commandement militaire des gardiens de la révolution. Mais on n'a pas de figure particulière, il y a des porte-paroles qui se succèdent, et ce sont ceux qui revendiquent les frappes, tout en laissant encore une place à la négociation. C'est-à-dire, les frappes sont perçues comme c'est la faute des Américains, c'est eux qui ont commencé, ils nous ont provoqué en envoyant des bateaux dans le couloir omanais, on a tiré dessus parce qu'ils n'avaient pas à le faire, et du coup, ils ont bombardé l'Iran, ils ont pris le risque de briser le MOU, ça. Nous avons répliqué justement, et on va voir ce qu'on va voir. Mais l'idée, c'est de continuer à faire de la force, de la pression au maximum, tout en considérant qu'il peut y avoir une négociation à la fin qui est davantage dans les intérêts de l'Iran. Vous voyez, c'est ça. Et d'où Hormuz, parce que c'est aujourd'hui devenu leur enjeu principal. Il y avait jusqu'alors Hormuz et la situation au sud du Liban et au nord d'Israël. Ça a été relativement mis de côté pour l'instant. Et la focalisation, c'est Hormuz.
La question maintenant du point de vue américain.
Et si j'ose dire, il y a l'élément aussi. Hormuz, ça veut dire le prix du pétrole qui remonte.
Et ça, on l'a vu d'ailleurs de manière immédiate.
6,5%. Bon, c'est pas encore gigantesque. C'est à $75 à peu près. Ou un peu plus maintenant.
Mais c'est clairement.
Ça a changé de sens.
Ça a changé de sens. Ça a commencé à baisser, même si depuis une semaine, les prix. Alors là, pour le coup, au bout de la chaîne, à la pompe, était tout à fait stable, voire même remontait déjà légèrement. Gilles Kepel, du point de vue américain maintenant, certains disent qu'au fond, étant débarrassé désormais de son calendrier de festivités, et notamment du 4 juillet, et même si la Coupe du Monde n'est pas terminée, les Américains ne sont plus dans le jeu, est-ce que ça veut dire aussi que Donald Trump, au fond, se dit « bon, j'ai peut-être... » un peu laisser se terminer cette guerre sans frapper suffisamment. Je veux montrer que je suis capable d'aller jusqu'au bout. Est-ce que cette théorie-là tient ou est-ce qu'il n'est que dans des soubresauts de réponse? Est-ce qu'il peut se dire, au fond, allez, je reprends la guerre parce que je l'avais pas vraiment fini?
Il y a ça, et puis il y a lui aussi, il y a des élections. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aborde dans la meilleure les meilleures conditions possibles les élections de midterms pour le parti républicain. Ce qui veut dire d'abord un enjeu d'image, ne pas donner l'impression de s'être couché devant l'Iran et d'apparaître affaibli, mais également de faire en sorte que le contraire, c'est qu'il faut que le prix du pétrole reste bas puisque c'est la fameuse driving season.
Donc il est tiraillé en fait entre ces deux questions, se montrer effectivement victorieux et de l'autre côté en même temps mettre fin le plus vite possible à tout cela et que le prix du pétrole redescende.
Si possible, voilà, c'est un peu le dilemme dans lequel il est pris aujourd'hui. Alors bien sûr, dans cette rhétorique politique, quand on dit je suis menacé de mort, etc., ça a un effet, on se rassemble derrière le drapeau, derrière le président.
Deux questions très importantes aussi sur lesquelles je voudrais vraiment avoir votre explication, Gilles Kepel. La question d'une éventuelle reprise aussi par Israël des bombardements après cette déclaration. Nous sommes prêts à attaquer l'Iran une troisième fois si c'est nécessaire. Mais d'abord, l'équilibre de la région, la question du rapport des uns et des autres, vous l'avez dit, un bateau qatari touché par l'Iran, alors qu'ils auraient plutôt intérêt à les ménager. Et puis la question de l'Arabie Saoudite, de tous les pays du Golfe, où en sont-ils aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran?
Et pas seulement ça, mais aussi la Syrie qui intéresse particulièrement la France, puisque Emmanuel Macron accompagné
revient de cette première visite officielle,
Patrick Pouyanné, Rodolphe Saadé, entre autres. En Syrie, la Syrie apparaissant dans cette perspective comme un moyen de contourner le détroit d'Hormuz, puisque en Syrie, vous aviez depuis l'époque du mandat français sur le Liban et la Syrie dans l'entre-deux-guerres, un oléoduc qui amenait les pétroles du sud de l'Irak, de la région de Kirkouk, Mossoul, etc., vers la Méditerranée. Ce qui évitait à l'Irak, qui aujourd'hui est complètement bloqué car son pétrole ne passe plus qu'au compte-gouttes par la Turquie et par le Kurdistan, de pouvoir exporter son pétrole.
C'est très intéressant, c'est-à-dire que Gilles Kepel, vous lisez cette visite, elle avait évidemment un rôle diplomatique, montrer que la France est le premier pays à revenir en Syrie depuis le changement de régime, mais aussi, vous avez presque dit, je crois, Emmanuel Macron accompagnait les patrons comme si c'était eux-mêmes qui étaient au fond presque. Les meneurs, et vous citez à la fois le patron de Total, M. Pouyanné, le patron de CMA-CGM, par ailleurs d'ailleurs propriétaire de BFM TV et d'RMC, qui lui s'occupe des transports, CMA-CGM, oui. Rodolphe Saadé, ça veut dire que pour vous, c'est ça le nouvel enjeu, la stratégie de la Syrie?
C'est un enjeu très important.
Faire ce choix-là.
Oui, puisque on n'en est pas là, hein, parce que les conditions de sécurité, Patrick Pouyanné l'a bien dit, ne sont pas encore réunies.
Et d'ailleurs, il y a eu deux explosions, voilà, alors même que Emmanuel Macron était présent sur place.
Djihadistes très méchants, mais c'était peut-être aussi le business d'autres pays de la région qui n'avaient pas envie de voir revenir les Français dans la boucle, on n'en sait rien. Vous voyez, c'est dans la recomposition globale, il y a ça, ces enjeux économiques très importants qui sont aussi l'évacuation des flux pétroliers dans la perspective qu'Hormuz reste difficile à traverser. Alors, tout le monde préfère ça, que ça soit
Mais il
libre.
Faut préparer la suite, en quelque sorte.
Voilà, il faut préparer les choses, et donc la visite en Syrie s'inscrivait aussi dans cette éventualité. On mettait des jalons, on n'en est pas encore là. Parce qu'il
le régime a vraiment changé en Syrie?
Le régime n'est plus celui d'Assad. Bon, maintenant, Monsieur Sharia, c'est quand même un ancien djihadiste recyclé, alors qui donne toutes sortes de promesses, mais dont une partie des troupes n'ont pas du tout renoncé à leurs engagements de départ. Donc, il faut toujours être assez prudent. Il est visiblement très désireux de ne pas faire de faux pas, en particulier de ne pas intervenir au Liban, comme Trump l'avait incité à le faire. C'est aussi un élément de stabilité. La Syrie est un élément clé pour la stabilité du Liban. Et ça, bien sûr, pour la France, c'est un enjeu très important, vu l'importance des liens entre la France et le Liban.
Gilles Kepel, Israël est prêt à attaquer l'Iran une troisième fois si nécessaire. Voilà ce que disait le ministre de la Défense israélien hier. Ça aussi, c'est crédible. Est-ce que ça veut dire que Israël se dit, mais irait-il sans les Américains?
Mais non, ils n'iront que s'ils ont l'autorisation de Trump. Et je n'ai pas l'impression que les États-Unis aujourd'hui aient besoin de faire entrer Israël dans le jeu, puisqu'il ne s'agit pas d'une guerre finale ou d'une guerre d'extermination dans les deux cas, mais d'une guerre qui fait que l'un et l'autre des négociateurs, si j'ose dire, l'Iran d'un côté et les États-Unis de l'autre, arrivent dans une position de force à la table des négociations. Et c'est pourquoi la dimension de l'attaque iranienne ressemble davantage à un peu une sorte de fuite en avant, parce qu'ils ont l'impression que c'est leur dernière carte. S'ils n'arrivent pas à contrôler Hormuz, si Hormuz leur échappe, alors ils n'ont plus rien.
Les Iraniens sont affaiblis aujourd'hui. Est-ce qu'ils sortent affaiblis ou renforcés de cette séquence?
Enfin, ils sortent renforcés sur le plan idéologique. Le régime a quand même tenu, ils ont résisté à la plus grande armada du monde, etc. On n'a aucune idée de l'ampleur des foules qu'il y a eu lors des obsèques de Khamenei, qui sont passées, qui ont fait montré une sorte de géographie du contrôle, parce que
Le cercueil
est allé également en Irak, à Najaf et à Karbala, pour montrer un peu, pour marquer le territoire contrôlé par l'Iran dans la région, si vous voulez. Mais après, on a pu filmer de près.
Mais c'était difficile donc d'imaginer part de cette foule était libre ou non.
S'exprimer.
Encore cette question, Gilles Kepel, du rôle de la Turquie. J'aimerais qu'on termine là-dessus, puisque c'est là qu'a eu lieu le fameux sommet de l'OTAN. Elle est dans le camp occidental ou elle est dans l'autre camp, la Turquie?
Elle est dans tous les camps à la fois, et ça, c'est la volonté de l'Anatolie et du Bosphore et des Dardanelles, c'est de faire le pont entre l'Europe ou l'Occident et l'Orient, voilà, c'est ça. Et bien sûr, les Turcs essayent de pousser leur avantage. La Turquie est devenue aujourd'hui une puissance militaire. Ce sont eux qui ont été les premiers à fournir des drones de manière systématique. Et puis c'est pas seulement Est-Ouest, la Turquie, c'est aussi la relation entre la mer Noire, c'est-à-dire le conflit russo-ukrainien, et la Méditerranée. Donc Erdogan essaye de faire monter son rôle. L'armée turque est la deuxième armée en nombre de soldats dans l'OTAN, après les États-Unis. Et donc l'objectif, c'était de renforcer ce rôle de la Turquie, qui veut bien sûr jouer sa partie au Moyen-Orient, face à des rivaux comme les Émirats Arabes Unis, par exemple, en s'alliant parfois avec l'Égypte, parfois avec l'Arabie Saoudite. Mais cet ensemble est extrêmement fragile, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, votre question. On voit bien que les alliances conjoncturelles des uns et des autres peuvent se faire et se défaire. La guerre a complètement déstabilisé, voilà, et ça n'est pas redistribué, si vous voulez.
Elles sont pour l'instant éparpillées, en quelque sorte.
Exactement. Et c'est le cas, par exemple, du Conseil de coopération du Golfe, où on voit que l'Arabie Saoudite et les Émirats ont des stratégies complètement différentes aujourd'hui, y compris dans la région, que le Qatar joue sa partie en étant aussi pris en otage de l'Iran quand il va trop loin. Donc tout ça est un enjeu de lecture extrêmement complexe, et on n'a pas fini d'en
parler. Chacun finalement a sa propre partition à jouer.
En grande partie, oui.
Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir répondu à mes questions ce matin et nous avoir éclairé sur la situation aujourd'hui. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient. Il est 8h46 sur RMC et BFM TV.
Merci Apolline, vous restez bien sur RMC à 8h47, c'est l'heure du mondial de Virginie. Et vous savez quoi? Les Bleus sont en demi.
RMC, Apolline Matin.
8h50, vous êtes sur RMC, bien sûr. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde, bien sûr.
RMC, le mondial de Virginie.
Et bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Toutes les infos sur la Coupe du Monde, c'est tous les matins avec vous. La France a battu le Maroc 2-0 hier soir en quart de finale. Les Bleus affronteront l'Espagne ou la Belgique mardi.
Et mardi, c'est le 14 juillet. Les Bleus vont disputer leur troisième demi-finale de suite en Coupe du Monde et plus si affinité. Seuls le Brésil et l'Allemagne ont réussi la même chose dans l'histoire pour situer un petit peu la performance. Hier soir, les Bleus ont donc battu le Maroc 2-0 dans un stade de Boston, pourtant très majoritairement acquis au Lion de l'Atlas. La victoire a mis un petit peu de temps à se décider. L'équipe de France dominait largement, mais on peut souligner la performance du gardien marocain. Il a même arrêté un pénalty de Kylian Mbappé. Mais à l'heure de jeu, Yacine Bounou a fini par céder. Vous l'avez vécu sur RMC.
Doué, faut batailler pour ce genre de ballon. Voilà qui est fait par Rabiot. Doué qui la récupère derrière, qui la glisse à Mbappé. Allez Mbappé, Mbappé, la frappe. Eh oui, Kylian Mbappé, après le pénalty raté, délivre l'équipe de France dans ce quart de finale de la Coupe du Monde. La spéciale ballon enroulé, deuxième poteau, et les Bleus mènent 1-0.
Voilà, situation débloquée avec Jean-Louis Tourin. Oui, bien sûr. Attendez. 6 minutes plus tard, c'est Ousmane Dembélé qui est venu clore les débats.
Dembélé, Dembélé, Mbappé, le crochet de Dembélé, la frappe de Dembélé, et le but.
Ben voilà.
Deuxième but pour l'équipe de France.
Voilà, 2-0, la messe était dite. Didier Deschamps a pu faire tourner. Il a même offert à Warren Zaïre-Emery ses premières minutes de jeu depuis le début de la Coupe du Monde. Convaincant d'ailleurs le Parisien.
Alors ces Bleus dégagent une force assez incroyable.
Depuis le début de la compétition, ils sont constants dans l'excellence. Je mets de côté le match contre le Paraguay où ils ont montré d'autres qualités, comme celle de ne pas craquer devant les provocations. Mais cette équipe est un rouleau compresseur. 6 matchs, 6 victoires, 16 buts marqués, la moitié par Kylian Mbappé, et 2 seulement encaissés. Tiens, est-ce que le capitaine des Bleus a l'impression d'évoluer dans la meilleure équipe du monde ?
J'ai été champion du monde et j'ai été vice-champion du monde. Cette équipe, elle est ni champion du monde, ni vice-champion du monde. Donc à l'heure actuelle, c'est pas la plus forte. C'est celle qui a le plus de potentiel, celle avec laquelle on peut se projeter le plus facilement, où il y a beaucoup de qualités. Elle te permet de rêver, bien sûr, mais la plus forte, j'ai toujours dit que les équipes fortes, c'est les équipes qui gagnent. Et jusqu'à preuve du contraire, je vois pas de coupe dorée à côté de moi, donc c'est pas l'équipe la plus forte.
Voilà, du Mbappé dans le texte. Il reste 2 marches à gravir, il a raison, et pas les plus simples pour ramener la coupe à la maison. Mais quand même, en tribune hier soir, Antoine Griezmann a apprécié ses successeurs en équipe nationale. Il y avait du beau monde en tribune d'ailleurs. Hein. Gianni Infantino,
ouais,
je plaisante évidemment, on a le droit. Hein. Je pensais plutôt à celle qu'on voit peu, mais qu'on entend beaucoup, beaucoup depuis le début du mondial. Je crois que c'est Shakira.
Paraît-il.
Kylian Mbappé lui avait bien dit dans le clip officiel de Die Die qu'il était ready. Et il est rassurant, hein, Kylian Mbappé, sur sa cheville, parce qu'il est sorti en fin de match, il a pris un coup, mais c'est tout, ça va aller.
Bon, ça c'est rassurant pour les demi-finales. Il n'y a pas qu'en France qu'on en fait beaucoup sur les Bleus. Hein.
Alors, en feuilletant la presse internationale, il y a ceux qui, comme les Espagnols, disent que la France représente décidément un gros morceau, assez sobre. Les Anglais se pâment devant Kylian Mbappé en se demandant qui pourra arrêter cet homme. Ne pariez pas contre lui, voilà ce qui ressort. Mais la palme revient au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. Les Allemands peuvent se lâcher vu qu'ils ne sont plus dans la compétition. C'est la prise d'assaut la plus irrésistible depuis la Bastille. Bon, ok. Rien que ça, ça tombe bien, on a rendez-vous le 14 juillet pour la demi-finale.
Et oui, et oui. Et c'est ce soir qu'on connaîtra l'adversaire de l'équipe de France, l'Espagne ou la Belgique, opposée ce soir avec les Belges qui se remettent à rêver.
Ouais, je crois que pour les Belges, la morale de cette Coupe du Monde, c'est ça.
Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil.
Oui, comme celui de Donald Trump à Gianni Infantino. Hein, l'équipe belge, elle végétait un peu depuis le début de la Coupe du Monde. Et puis après, ce coup de fil, le carton rouge annulé, etc. Ils se sentaient un peu déstabilisés, les Belges. Et ils ont battu les États-Unis 4-1. L'équipe a montré un autre visage. Ce soir en face, c'est l'Espagne. Là, c'est un gros morceau.
Un gros morceau, oui. Espagne-Belgique, c'est une belle affiche. Et pourtant, elle passionne peu.
Ben, il suffit de regarder les prix des places sur le marché de la revente. Ils s'effondrent. En quelques heures, le billet le moins cher pour ce match est passé de 2 950 $ à la revente à 1 175. Alors oui, ça reste cher, hein, mais c'est quand même une chute de plus de 60%. Ça pourrait encore baisser d'ici ce soir. Pourquoi ? Bah en fait, potentiellement, ce quart de finale, il pouvait opposer les États-Unis, chez eux, à Los Angeles, au Portugal et à la superstar Cristiano Ronaldo. Forcément, vous savez, la majorité des Américains, en gros, ils connaissent Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, un peu Kylian Mbappé, mais Thibaut Courtois, beaucoup moins.
Bah, ils vont le découvrir. L'Argentine fait déjà de l'Angleterre sa cible.
Oui, il y a une potentielle demi-finale Argentine-Angleterre si les Anglais battent la Norvège et les Argentins les Suisses, mais juste après leur victoire contre l'Égypte en huitième de finale, dans le vestiaire, les joueurs argentins ont directement visé l'Angleterre. Alors tout y passe, hein, la main de Dieu de Maradona contre l'Angleterre il y a 40 ans et on refait la guerre des Malouines. Ça promet cette demi-finale si elle a lieu. On va quand même dire aux Argentins qu'ils ont failli passer à la trappe contre le Cap-Vert puis encore une fois contre l'Égypte. Alors il faut peut-être pas faire comme si la Suisse c'était juste une formalité.
Les Anglais qui affrontent d'abord la Norvège samedi et la presse anglaise surveille tout.
Jusqu'au régime alimentaire d'Erling Haaland, histoire de connaître les secrets de l'attaquant norvégien. Le régime du cyborg, c'est quelque chose, 6000 calories par jour. Le poulet, la mayonnaise, le chocolat. Alors oui, on imagine avec des montagnes de nourriture. Bon, vous imaginez bien, il n'y a pas trop de crème glacée et de burgers dégoulinants. C'est viande, poisson, œufs, riz complet et des légumes. 6000 calories, c'est quand même 3 fois plus que la moyenne d'un homme de son âge. On va finir par avoir la recette pour marquer des buts.
On va suivre ça avec une grande passion.
Moi,
sur
je mange
RMC.
Autant, mais je marque moins.
Tout le week-end, hein, il y a Espagne-Belgique ce soir et puis les autres quarts dans le week-end. On me dit dans l'oreillette qu'ils mangent des Brésiliens au petit déjeuner. 8h57. Alain Marchal est là, les GG vont démarrer. Salut Alain.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le 32-16 pour être avec les grandes gueules en direct jusqu'à midi. Cette équipe de France, il y a une espèce de force tranquille. Elle n'est jamais inquiète. Vous savez quoi, moi je vais vous demander, est-ce qu'elle est inspirante même pour vous, cette équipe de France? Est-ce qu'elle est inspirante? Est-ce qu'elle vous rend fier? Vous venez en discuter avec nous au 32-16. Parmi nos autres sujets de discussion, on va s'interroger pourquoi on ne trouve plus de pompiers volontaires. Il va manquer 50 000 pompiers en France d'ici 2030. Là où on aura de plus en plus de canicules et de plus en plus besoin d'intervention de pompiers. Est-ce que c'est un problème avec les entreprises qui ne les libèrent pas? Est-ce que c'est un problème d'engagement, de volontariat? Vous venez en discuter avec nous, bien sûr. Et puis parmi nos autres sujets de discussion, la suspension du permis en cas d'infraction aux stupéfiants. Vous voyez, suspension à titre préventif. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Eh ben, on vous attend. Les grandes gueules, c'est jusqu'à midi.